Europe 1, il est 6h.
Le fait d'appeler le 15 est sûrement une bonne stratégie quand vous avez quelques centaines de cas. Ça devient plus du tout une bonne stratégie quand on doit traiter des milliers de personnes.
L'inquiétude des généralistes face au coronavirus qui a fait un premier mort français hier. Ils craignent l'afflux de malades potentiels dans les cabinets.
L'épidémie gagne encore du terrain. 40 pays touchés sur 3 continents. De quoi paniquer. Heureusement, notre spécialiste Mélanie Gomez viendra vous rassurer. Dans la grande majorité des cas, le virus n'est pas grave.
Dans l'actualité également, le sondage exclusif BVA Orange Europe 1 sur les municipalités. Municipal à Strasbourg, la socialiste Catherine Trottmann en position de jouer les arbitres.
Le grand flou des tarifs SNCF dénoncé par le magazine 60 millions de consommateurs, pas facile de s'y retrouver.
Ce qui frappe, c'est les tarifs qui font le yo-yo sur un même trajet. On peut avoir des tarifs qui varient de 1 à 11.
Et puis Lyon réussit à surprendre la Juve en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Victoire 1-0 dans un stade en délire. Malgré l'inquiétude autour du coronavirus, les supporters n'ont pas été déçus du voyage.
Quelle victoire! Plus beau match de la saison, ça c'est sûr.
6h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Avant-hier, on disait encore qu'il n'y avait plus aucun cas de coronavirus en France. Depuis, tout a changé. On a appris hier la mort d'un homme de 60 ans enseignant dans un collège de Crépy-en-Valois dans l'Oise.
C'est le premier décès d'un Français contaminé et il n'avait pas séjourné dans une zone à risque. Une enquête est donc lancée pour tenter de comprendre ce qui s'est passé.
4 malades sont également hospitalisés, dont un dans un état grave à Amiens. Officiellement, il faut impérativement appeler le 15 si on craint d'être touché par le coronavirus. Mais les généralistes craignent de voir arriver directement tous ceux qui se croient infectés, ce qui pourrait avoir de graves conséquences. Le docteur Bertrand Legrand est médecin à Tourcoing et secrétaire général du syndicat CSMF.
Le fait d'appeler le 15 est sûrement une bonne stratégie quand vous avez quelques centaines de cas. Ça devient plus du tout une bonne stratégie quand on doit traiter des milliers de personnes. Or, clairement, maintenant, on va rentrer dans cette phase où ce sera des milliers de cas suspects pour peut-être un seul ou deux cas de coronavirus.
Est-ce que vous craignez qu'il y ait des gens qui viennent vous voir directement plutôt que d'appeler le 15?
C'est tout le fond du problème, c'est que cette stratégie est partie du principe que les patients seraient responsables. Penser ça est une utopie. C'est totalement utopique de penser que les gens vont se rester confinés. Un médecin qui recevrait un cas suspect qui serait donc passé en cas probable, donc en isolement à l'hôpital, le cabinet est censé fermer, le médecin est censé rester chez lui pendant 14 jours et on a un suivi de tous les patients qui sont en salle d'attente. C'est impossible. Une fois que vous aurez 1000 médecins qui seront à l'arrêt, comment on va soigner les gens? On est déjà en situation tendue, on est déjà en épidémie de grippe, c'est pas possible.
Le docteur Bertrand Legrand, micro européen de Lionel Gougelot.
Coup de gueule, donc alerte pour le moins des médecins généralistes, des libéraux en première ligne, vous l'avez entendu, disent-ils, et pas suffisamment équipés. Je reçois Jean-Paul Ortiz à 6h40, le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Plus de 80 000 personnes contaminées dans le monde, 12 morts en Italie, pays d'Europe le plus touché. La liste s'allonge chaque jour un peu plus, et difficile de ne pas s'inquiéter.
Mélanie Gomez, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Et vous nous remettez les idées en place. Le coronavirus, c'est sérieux évidemment, mais ce n'est pas grave.
D'un point de vue national, il ne faut pas encore céder à la panique. En tout cas, à ce jour, on a eu une dizaine de cas. On ne note que 2 décès en France. Imaginez quand même la grippe. Chaque année, c'est plus de 10 000 décès. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ce coronavirus à ce jour. Encore une fois, on n'est pas dans une épidémie en France. Ce qui inquiète les gens aujourd'hui, c'est que ce virus, on n'a pas de médicaments spécifiques pour le soigner. Mais il faut rappeler que dans la majorité des cas, dans plus de 90% des cas, les personnes infectées par le coronavirus guérissent spontanément. Donc pas de quoi s'affoler encore d'un point de vue individuel médical en tout cas.
Et Mélanie, si on se sent mal, si on tousse, c'est la catastrophe?
Alors si aujourd'hui vous avez des symptômes qui font penser au coronavirus, que vous toussez, que vous avez de la fièvre, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de fortes chances pour que vous ayez plutôt la grippe. On est en pleine épidémie, donc ça, il faut le rappeler. En revanche, si vous avez voyagé évidemment dans des zones épidémiques comme la Chine ou les régions touchées en Italie, là, effectivement, c'est tout à fait différent. Vous appelez le 15, on fera le point avec vous, on vous fera hospitaliser si besoin. Pour les autres, vous consultez un médecin généraliste classique pour évidemment faire un diagnostic différentiel et éventuellement confirmer que vous avez la grippe.
Mélanie Gomez, merci Mélanie. Mélanie qu'on retrouve tous les jours sur Europe 1, vous le savez, dans 100 rendez-vous, c'est de 15h à 16h.
Et les pouvoirs publics dans tout ça, le Covid-19, ce n'est pas seulement une question sanitaire, c'est aussi une question politique. Il faut absolument faire face. Ce matin, Édouard Philippe va recevoir à Matignon les chefs de parti ainsi que les présidents de groupes parlementaires pour évoquer cette question du coronavirus. Il est impératif de soigner la communication, Adrien Beck.
Informer, prévenir sans déclencher une psychose, voilà l'équation compliquée du gouvernement. En première ligne, le ministre de la Santé Olivier Véran et son point d'information quotidien. Des réunions régulières avec Édouard Philippe et son gouvernement. Chaque mot, chaque image doivent être pesés. Par exemple, l'exécutif ne parle pas d'épidémie à ce stade et insiste sur les moyens mobilisés. Hôpitaux, commandes de masques, renforcement des outils de dépistage. Il faut qu'on montre que tous les préparatifs ont été faits, dit un ministre. Le sujet est sanitaire, mais le risque est aussi politique. L'opposition ne manquerait pas d'attaquer un gouvernement qui n'en ferait pas assez. Édouard Philippe a déjà envoyé une lettre à tous les maires de France. Ce matin, il reçoit l'ensemble des partis. Et c'est une demande, on y répond, souligne-t-on à Matignon. Une façon aussi d'impliquer l'ensemble de la classe politique dans la gestion de cette crise. Un ministre espère que l'opposition sera raisonnable. Il ne faut pas qu'on fasse les retraites bis sur le coronavirus. Le sujet est trop grave.
Et la question politique aussi hein, autour de la gestion de ce Covid-19, de ce coronavirus. 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. On a déjà beaucoup parlé de toutes les conséquences économiques hein, du virus. On ne compte plus les manifestations annulées ou écourtées. La dernière en date, le carnaval de Nice.
Et aussi la fête du citron à Menton. Aucun cas de contamination n'a été détecté dans le département des Alpes-Maritimes. Mais l'afflux de dizaines de milliers de spectateurs pouvait favoriser les risques de contamination. Impossible de prendre le risque. À Nice, le reportage de Frédéric Michel.
Mais je pense que depuis que ça se trame, ils auraient dû le prévoir avant quand même.
Déçus, ces touristes de l'Hérault se faisaient une joie d'assister à la bataille des fleurs et au corso nocturne de carnaval ce samedi. Comme 18 000 autres spectateurs, ils pourront se faire rembourser leurs billets. Marie-Lise et Louis-Paul.
On devait aller à Menton aussi, et oui.
On comprend qu'ils prennent des précautions, ça, c'est normal. Hein. Ça, c'est un risque trop important.
Ah oui, c'est trop risqué là.
Mais on est un peu déçus.
Cette annulation de dernière minute, c'est un manque à gagner évident pour les commerçants, mais la mesure est bien acceptée. Philippe Desjardins préside la fédération qui regroupe les 22 associations de commerçants de la ville de Nice.
Je préfère une sortie annulée qu'une annonce de X décès qui pénaliserait énormément les Alpes-Maritimes. De toute façon, on ressentait quand même un petit manque par le fait qu'il n'y avait plus d'Asiatiques.
Annulé préventivement le carnaval et la fête du citron, une position largement partagée dans la population. Dans un sondage réalisé ces dernières heures, 72% des personnes interrogées se prononçaient pour cette décision.
Frédéric Michel à Nice pour Europe 1 et ajoutons qu'Emmanuel Macron sera tout à l'heure à Naples pour un sommet avec l'Italie, sommet évidemment perturbé par le coronavirus.
Europe 1, il est 6h08.
Le procès Fillon a commencé pour de bon hier. L'ex-premier ministre est poursuivi pour les soupçons d'emploi fictif offert à son épouse pendant des années.
Son suppléant Marc Joulot est également poursuivi. Il risque 10 ans de prison. Première journée d'audience donc hier. Très technique, Salomé Legrand et pourtant déjà les premières piques.
La très rébarbative étude de questions de droit pointues n'a pas empêché l'échange d'amabilité. D'un côté du prétoire, les avocats du couple Fillon accusent le parquet financier d'avoir précipité l'ouverture de l'instruction pour qu'une loi plus sévère s'applique. Un juge désigné un samedi du jamais vu, tonne-t-il. À quelques jours près, la réforme de la prescription empêchait de remonter au-delà de 12 ans. Réplique immédiate du parquet national financier, je cite, « On a été naïfs de croire que la victimisation de la défense allait cesser pour faire place au droit. » Le second procureur attaque en insistant sur la gravité du détournement de fonds publics, délit puni de la peine correctionnelle la plus lourde, 10 ans de prison. Il se permet un saut au Moyen-Âge pour rappeler que c'était alors passible de la peine de mort par pendaison. Le public frissonne d'excitation. Sur leur strapontin, les trois prévenus se redressent d'un bond.
Les municipales à présent, et comme chaque jeudi, vous le savez, Europe 1 vous dévoile un sondage exclusif en partenariat avec BVA et Orange. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la ville de Strasbourg.
Principal enseignement, Catherine Trottmann redonne des couleurs au Parti Socialiste. Elle pourrait même se retrouver en position d'arbitre au second tour. Les précisions d'Adélaïde Zulvi-Karpasik, directrice de BVA Opinion.
L'issue du premier tour reste assez incertaine. Jusqu'à présent, les enquêtes montraient que la candidate Europe Écologie Les Verts était en mesure d'arriver en tête dès le premier tour et apparaissait comme la favorite de ce scrutin. On voit bien là que l'arrivée de Catherine Trottmann est un tout petit peu préjudiciable à la liste Europe Écologie Les Verts, puisqu'on aurait deux listes qui arrivent en tête dans un mouchoir de poche. La liste LREM qui est conduite par Alain Fontanel avec 27% des suffrages exprimés et qui devance la liste Europe Écologie Les Verts conduite par Jeanne Barseguian, créditée de 25% des voix. La vraie surprise et la vraie nouveauté, c'est la possibilité a priori pour la liste PS conduite par Catherine Trottmann de se maintenir au second tour et donc de peser soit en se maintenant, soit en négociant des alliances d'un côté ou de l'autre. Mais on voit qu'en tout cas, Catherine Trautmann est en quelque sorte une faiseuse de mer et en tout état de cause que son rôle sera vraiment déterminant dans l'issue de ce scrutin.
La directrice de BVA Opinion au micro de Claudia Bertram. Prudence dans 10 départements du nord de la France ce matin, du Pas-de-Calais à la Moselle en passant par la Marne. Ils sont placés en vigilance orange, neige et verglas.
La neige qui va arriver dans la matinée, nous disait Laurent Cabrol. SNCF, tout déraille. C'est le titre sans appel du magazine 60 millions de consommateurs qui sort ce matin.
Guichet fermé, desserte supprimée, mais surtout flou total sur la politique tarifaire. C'est un constat effectué après l'analyse de près de 3000 trajets. Aurélien Fleureau.
Ce qui frappe, c'est les tarifs qui font le yo-yo sur un même trajet. On peut avoir des tarifs qui varient de 1 à 11.
Un trajet en TGV entre Aix-en-Provence et Paris peut vous coûter le week-end entre 25 et 116 euros pour une place en seconde classe sans carte de réduction. Évidemment, plus vous réservez tôt, moins cher vous paierez. L'économie moyenne en achetant son billet 2 mois à l'avance est de 20% par rapport à un achat 15 jours avant le départ. Mais cela ne marche pas à tous les coups, a constaté Benjamin Dourier de 60 millions de consommateurs.
Sur les grands départs, effectivement, des bons plans, il n'y en a pas. On l'a vérifié, nous, en relevant les prix pour un départ le week-end de l'Ascension. On a relevé les prix dans les 24 heures qui suivaient l'ouverture des réservations. Sur les Paris-Bordeaux, tous les trains étaient au tarif maximum autorisé à la SNCF.
Et la ligne où la SNCF rentabilise le plus, c'est le Paris-Lyon. Beaucoup de demandes, peu de petits prix, sauf si vous voyagez avec Ouigo. Et puis, autre source de flou relevée par 60 millions de consommateurs, les cartes de réduction, qui ne sont pas utiles pour tous les types de trains. Sur des trajets en TER, comme sur le Paris-Cancherbourg ou Paris-Orléans, la carte de la région est souvent plus avantageuse que la carte SNCF.
Paris-Lyon, et ça y est, on s'installe à Lyon avec du football sur fond de coronavirus. C'était hier soir au Groupama Stadium. Près de 3000 supporters italiens étaient venus soutenir la Juve qui affrontait Lyon en 8e de finale aller de Ligue des Champions.
Et ils ont été déçus, les supporters italiens. C'est l'OL qui l'a emporté 1-0. But de Toussard à la 31e minute. C'est la première fois que Lyon s'impose face à ce géant d'Europe et l'ambiance était à la hauteur de l'exploit. Cyril de la Morinerie.
Sur le terrain, les joueurs viennent saluer les supporters. En tribune, tout le monde est debout. Pierre n'en revient toujours pas. Lyon a bel et bien battu la Juve de Cristiano Ronaldo.
Quelle victoire ! Plus beau match de la saison, ça c'est sûr.
Cristiano Ronaldo, pas bon aujourd'hui.
Pas bon, comme le reste de l'équipe turinoise. Malgré sa pléiade de stars, le club italien n'a pas réussi le moindre tir cadré. Le héros du match, c'est Luca Toussard, idéalement servi à la 31e minute par Oussem Aouar.
Je vois que le ballon arrive sur mon pied gauche et j'arrive à la mettre au fond. Donc, émotion de fou. Je savais qu'il y avait beaucoup de monde qui me soutenait dans la tribune. Et voilà, des frissons et après, tout qui va bien.
Et même si ce supporter y croit dur comme fer...
On va voir ce qu'il y a fait au match retour.
L'entraîneur lyonnais Rudy Garcia se montre prudent. Ce n'est que la première manche. La deuxième est prévue à Turin dans 3 semaines. Lyon, Cyril de la Morinerie.
Et on rappelle que le maire de Lyon, Gérard Collomb, avait voulu donner l'exemple face aux critiques sur la venue des supporters italiens. Il était dans les tribunes et sans masque.
Ouais, mais j'en ai vu des masques. Hein.
Ça veut dire
quand vous avez suivi le match, il y avait quelques masques hein, dans la
et
tribune.
Et puis des gens mitouflés dans leur capuche.
Ouais, aussi. Et d'ailleurs, ça fait vraiment débat que cette question des supporters italiens, parce que figurez-vous que dans le même temps, le match de rugby Irlande-Italie, qui se joue en Irlande, hein, évidemment, a été annulé dans le cadre du tournoi des Six Nations, reporté, faut être précis. Sur les termes, on va reparler justement de ces débats autour de Lyon-Juve avec les supporters italiens dans le journal de 6h30 avec Pierre Herbulot. Merci Hélène Zellani. 6h14, bon réveil à toutes et à tous.
À suivre notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini.
Et mon invité inattendu.
Ça ne va pas, monsieur Duss. Ça fait la 30e fois que je vous le dis. Ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton.
C'est encore les vacances pour certains jusqu'au 9 mars et on vous emmène à la montagne dans un instant. Respirez un peu, prendre le grand air et on va vous présenter le doyen des moniteurs de ski français. Il est toujours sur les pistes, quelle que soit la couleur, les pistes noires y compris, à 87 ans. Raymond Brunier est mon invité dans un instant.
Il est 6h16 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Béliard.
Les municipales avec ce sondage exclusif Orange Europe 1 pour la ville de Strasbourg. La socialiste Catherine Trottmann arrivera en troisième position au premier tour et jouerait les arbitres entre En Marche et Les Verts. On va en parler dans nos éditions ce matin. Un premier Français décède du coronavirus, un homme de 60 ans enseignant dans un collège de l'Oise. Une enquête est lancée pour savoir comment il a été contaminé. Hier soir, les footballeurs de Lyon ont battu la Juventus Turin 1-0 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Près de 3000 supporters italiens avaient fait le déplacement malgré le risque de contagion.
La météo, de la pluie sur les régions de l'ouest ce matin. Le Midi-Pyrénées va conserver cette humidité. La perturbation va traverser la France direction l'est, où on attend de la neige. Dans la journée, des Ardennes aux Alpes. Les températures maximales, 7 à Boulogne-sur-Mer, 11 à Auxerre, 14 à Marseille et Bordeaux.
Europe 1.
À 6h17 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet dans l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et ce matin, un parfum de vacances. Certains d'entre vous sont en vacances jusqu'au 9 mars encore. Et on vous emmène au ski avec le doyen des moniteurs de ski français à Courchevel. Votre invité, Mathieu, c'est Raymond Brunier.
87 ans et toujours sur ses skis. Bonjour Raymond Brunier.
Oh, bonjour Philippe, comment allez-vous?
Merci Raymond, c'est Mathieu, enchanté, il n'y a pas de problème. Mathieu, pour vous servir, Raymond Brunier, en direct avec nous ce matin, le doyen des moniteurs de ski français. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours et votre pratique, mais d'abord, le ski chez vous, c'est pas arrivé d'office, hein. Vous êtes monté sur des skis vers 22-24 ans?
Oui, assez tard, après avoir fait beaucoup de sport et collectionné quelques diplômes par-ci par-là, et j'ai découvert le ski et je pensais que j'ai découvert un sport fantastique en plein air, alors qu'être dans une salle d'armes ou dans bon, c'était moins intéressant.
Oui, mais vous étiez sportif, voilà. Vous étiez athlétique, et je regardais dans le détail que vous avez découvert que l'école de Chamonix cherchait un prof de ski. Et, bah, vous avez menti en estimant que vous pouviez passer le test.
Ah oui, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un prof de sport qui sachait skier, ce qui est la moindre des choses quand on va à l'école haute montagne. Et en fin de compte, c'est parce que je voulais absolument découvrir le ski et voilà. Et l'histoire, c'est que au printemps, quand je suis arrivé, on m'a dit on va vous tester. Donc on est parti avec un gars. Nous sommes allés à la Flégère et à cette époque, il fallait monter à pied. Je découvre au passage un lac, le lac Blanc. Et là, je me suis dit maintenant, il peut monter aussi haut qu'il veut. Je saurais m'arrêter. Et puis pour l'histoire, c'est-à-dire que le soleil avait à peine caressé la neige était tôlée, était dure, granulée même, et j'ai toujours très chaud, donc j'étais en petit polo. et j'ai dévalé la pente tout droit, pensant que le ski c'était un peu ça, montrer son courage. Et puis, paraît-il que j'ai tenu pas très, très, très longtemps. La vitesse, le bruit, c'était effrayant.
Oui, il n'y a pas que le tout droit, effectivement.
Je suis tombé, les skis se sont écartés et je n'ai plus aucun souvenir. Simplement une petite voix dans le lointain qui m'a dit, après plusieurs minutes de coma, en somme. Et le gars m'a vu clignoter des yeux et c'est là qu'il m'a dit, je l'ai entendu très, 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 très lointain, tu ne sais pas skier, mais tu vas vite apprendre. Ça a été pour moi un grand bonheur parce que c'était un mensonge en somme.
Cela dit, c'était un mensonge, mais ça s'est transformé en réalité par la suite. Je passe un peu sur votre histoire, votre retour en banlieue parisienne et puis finalement Courchevel où aujourd'hui vous vivez. Vous avez fabriqué vous-même votre maison hein, à 1000 mètres d'altitude. Vous y vivez depuis 8 ans et vous apprenez aux vacanciers parisiens à skier pendant toutes les périodes de vacances. C'est vrai qu'on vous appelle papy moniteur?
Non,
j'ai vu ça, j'ai vu passer ça dans la presse.
Vous savez, on m'appelle, je suis un deuxième papy parce que j'ai plein de petits-enfants qui sont à moi ou pas à moi, mais ce sont les miens, à tous. Et c'était papy tout, le deuxième papy.
Oui, parce que les gens à qui vous avez enseigné le ski reviennent avec leurs enfants maintenant, leurs petits-enfants pour certains.
Oh non, alors ça par contre, non, j'ai perdu toute une clientèle quand j'étais permanent à l'époque, dans les années 50. J'étais permanent à l'école de ski de Courchevel, et puis pendant 8-10 ans. Et puis ensuite, comme j'avais un travail dans la région parisienne, que j'avais découvert d'ailleurs, je suis devenu couvreur en chaume, et c'était ma profession. Et comme c'était un travail prenant, je n'avais pas l'occasion d'enseigner le ski toute la saison, donc je venais avec ma famille pendant les périodes de fête, et en même temps j'enseignais, ça me payait le
Le séjour. Raymond, voilà. Raymond Brunier, je voyais, alors pour ceux qui skient à Courchevel et qui voudraient vous reconnaître sur les pistes, il paraît que vous chantez à tue-tête des chants tyroliens en descendant.
Oh, souvent, oui, quand je rencontre des copains, on s'appelle. Il y en a un ou deux qui me répondent, mais voilà, je pousse le yodel, oui. Ah, oui.
Ça donne quoi? On peut vous demander ou c'est trop tôt? Il y a du monde qui dort autour de vous?
Oh, ça n'a pas d'importance, je l'ai réveillé.
Bon, ah bah, allons-y alors. Allons-y, Raymond.
Alors, je vais vous faire un petit voix. Oh, la roue, oh, la roue, ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya. Voilà.
Cela dit, vos élèves ne doivent pas vous perdre sur les pistes.
Vous pensez que je vais réveiller vos auditeurs, ils le sont déjà, mais là, ils vont être encore plus.
Hein. Ah ben non, mais c'est sûr, et puis ils vont l'avoir dans la tête, dans la journée, simplement d'un mot, parce qu'on peut parler du ski pendant des heures avec vous, je le sens bien, Raymond Brunier. Oui. Mais votre véritable passion, je lisais entre les lignes, c'est aussi la montagne, tout simplement, l'univers de la montagne. Et j'aimerais vous demander, je pose la question souvent à ces observateurs en première ligne, à toutes ces années, vous avez 87 ans, vous l'avez vu changer la montagne?
Ah, ne m'en parlez pas, c'est d'une tristesse, c'est malheureux. Et quand j'entends des gens dire, oui, les périodes de glaciation, il y en a eu, et de l'un, mais je réponds toujours, mais la nature ne fait pas les choses comme ça brutalement. Elle les fait lentement, sur des périodes très, très, très longues, des centaines d'années. Et bien sûr que le climat a changé, mais là, avec cette violence et d'une rapidité si grande, que là, j'en suis malheureux. J'ai vécu, entre autres, à Chamonix, au Barra, au pied du Mont Blanc, d'une enfance malheureuse, enfin très, très difficile et très dure. Et mon réconfort, c'était d'aller au Myrtille, au glacier des Bossons, juste à côté. Un glacier merveilleux, immense, avec des sierras qui tombent presque abruptes. C'est un très beau glacier, y compris la mer des glaces. À l'époque, j'essayais de rivaliser avec le petit train à vapeur du Mont-en-Vert, et j'arrivais, et cette mer de glace, c'était un émerveillement de blanc et de bleu dégradé, c'est impressionnant. Et puis, il y a 30 ans déjà, je suis allé, et j'avais avec mon petit village, j'avais emmené le groupe des élus, et je leur avais dit, vous inquiétez pas, on va jusqu'à Chamonix. Je suis arrivé il y a 30 ans, mais c'était déjà un tas de pierres, c'était à 70 mètres plus bas d'épaisseur de glace. Je ne sais pas si vous imaginez, la mer de glace doit faire 300-400 mètres de largeur, et plus peut-être.
Et ça, c'était il y a 30 ans.
C'était déjà désolant. Et maintenant, je vois les photos, mais c'est pas une mer de glace, c'est une mer de pierre. Parce que toutes les pierres accumulées.
C'est pour ça que je voulais absolument vous poser la question, parce qu'on peut parler du folklore, du ski, et c'est très sympa, et c'est votre passion, Raymond Brunier, mais c'est aussi ça, vous êtes le témoin, finalement, en première ligne de cette montagne qui est la nôtre. Je vous remercie, c'était à la fois positif, et puis il y a ce message d'alerte aussi à la fin, j'y tenais. Raymond Brunier, 87 ans, doyen des moniteurs de ski français, et pour ceux qui seraient à Courchevel, il sera en avril au départ du slalom des vétérans du célèbre challenge des moniteurs de l'ESF. Je le dis, allez soutenir Raymond Brunier. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes ce matin sur Europe 1 en direct. Il est 6h25.
Europe 1. Il sera question de la neige dans les massifs de l'Est avec Laurent Cabrol, le journal de Jérôme Lacroix.
Mais tout de suite, notre rendez-vous à la ferme. Et si on partait en vacances, non pas au ski, mais à la ferme, justement. Fanny Agostini, tout de suite.
Europe 1, 6h26. Vous êtes avec Mathieu Béliard.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Mathieu.
À la campagne, avec ma compagne. On vit bien tranquille comme deux insouciants.
C'est Fanny Agostini featuring, comme on dit, featuring Bourville tous les matins, presque dans notre rendez-vous à la ferme. Fanny, vous nous dites qu'un phénomène est en train de grandir dans les campagnes françaises, l'agritourisme.
Oui, absolument Mathieu. Dans agritourisme, comprenez le tourisme à la ferme, tout simplement. La tendance est à la diversification des activités dans la profession, puisqu'un agriculteur sur cinq ne vit plus exclusivement sur des revenus liés à la vente de sa production. Et c'est vraiment l'agritourisme qui prend la part belle pour de nombreux d'entre eux, et ce, pour compléter jusqu'à 30% leurs revenus annuels. Une aubaine pour les touristes aussi, qui viennent à la ferme prendre l'air le temps d'une semaine ou d'un week-end, et qui vont pouvoir aussi assister ou participer aux activités qui font le quotidien de leurs hôtes.
Pourquoi pas participer? Il y a de plus en plus de plateformes qui se développent justement et qui facilitent la mise en relation entre agriculteurs et donc ces nouveaux clients.
Oui, il y a par exemple un des gros acteurs de l'hébergement qui a compris l'attrait que peut avoir cette nouvelle clientèle pour l'agritourisme. C'est Airbnb qui propose le concept d'immersion à la ferme avec, en 2019, des chiffres révélateurs. Tenez-vous bien, 3,7 millions de voyageurs ont visité les communes rurales, soit 20% de l'activité de la plateforme en France, qui compte quand même plus de 6000 fermes en hébergement. Il y a aussi AgriVillage, une plateforme dédiée à ce type d'hébergement associée à une activité de la vie à la ferme. Vous pouvez, ça c'est bien, choisir par exemple en fonction de vos envies et expérimenter la traite, la tonte des moutons, le maraîchage ou encore la récolte. AgriVillage, je le précise, qui a été fondé il y a seulement un an et qui compte déjà 400 fermes dans 53 départements français. Oui, 53.
Alors là, il y a aussi une très belle opportunité pour recréer du lien entre producteurs et consommateurs.
À mon sens, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est une réelle opportunité pour toute une nouvelle clientèle en manque de nature de mieux connaître le métier d'agriculteur. L'agritourisme permet de réinstaurer du lien en invitant à une reconnexion des personnes avec la terre, aux antipodes du tourisme passif et consumériste. Ce tourisme-là se veut vertueux en tout point et permet aussi, dans un contexte de perte de confiance, pour ne pas dire de grande méfiance vis-à-vis des pratiques agricoles et de la production alimentaire, d'aller au plus près de la source de notre alimentation pour pacifier la vision que nous avons de l'agriculture et des agriculteurs.
Le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini toute cette semaine au Salon de l'agriculture. Pourquoi pas les vacances à la ferme justement. On apprend des choses au contact de la nature tous les matins avec vous Fanny, merci beaucoup. Nous allons reparler du coronavirus dans le journal de 6h30 et à 6h40 également avec mon invité Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Le rôle des médecins généralistes dans cette crise, leurs inquiétudes aussi, sont-ils prêts? La réponse ce matin sur Europe 1.
Question épargne, la Caisse d'épargne vous répond.
Julien Daucher, vous êtes responsable de l'optimisation des solutions financières pour les caisses d'épargne. Pour le client qui veut gérer lui-même ses placements, vous proposez trois niveaux d'accompagnement. Lesquels ?
Alors, dans un premier niveau d'accompagnement, nous partageons avec le client notre analyse des marchés financiers et nos recommandations, en l'informant régulièrement. Le deuxième niveau d'accompagnement donne accès au savoir-faire de nos sociétés de gestion spécialisées. Cette variété d'expertise peut permettre aux clients de se constituer un patrimoine, soit diversifié, soit au contraire très concentré, en fonction de ses choix. Enfin, troisième niveau d'accompagnement, nous mettons à disposition du client un ensemble de portefeuilles ajustés, qui sont des solutions d'investissement combinant plusieurs fonds, et destinés à financer un projet de vie, comme les études de ses enfants, ou préparer sa retraite.
Pour bien choisir ses placements, il faut être bien accompagné. Découvrez le parcours épargne personnalisé en prenant rendez-vous avec un conseiller Caisse d'épargne. Caisse d'épargne. Vous êtes utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital.
6h30 déjà sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Alors avec de nouvelles vigilances orange, une nouvelle vigilance pour neige dans l'Oise. Alors je le dis tout de suite, la neige n'est pas encore là. La neige arrivera cet après-midi dans les régions que je vais citer, les départements l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Oise. Ils sont en vigilance orange parce qu'il neigera en deuxième partie de journée, tout simplement parce que pour l'instant c'est de la pluie. La pluie vient d'arriver à Paris, elle part tout juste de la Bretagne. Et donc la pluie dans tout l'Ouest. Et cet après-midi, le froid et la neige dans les régions du Nord-Est. On voit ça en détail tout à l'heure.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 6h30.
Le départ c'était en Chine et ça arrivait ici. Ça fait peur un peu. On peut se dire on peut tous l'attraper maintenant du coup.
L'inquiétude des habitants de Vaumoise, dans l'Oise, où vivait l'homme décédé mardi soir des suites du coronavirus. Comment a-t-il été contaminé? Il n'avait pas voyagé dans l'une des zones à risque.
Le match de foot Lyon-Juventus s'est tenu hier soir, malgré les critiques sur le déplacement des 3000 supporters italiens.
L'Italie où se rend aujourd'hui Emmanuel Macron, sommet franco-italien maintenu.
Dans ce journal, la lente reconstruction du village de la Faute-sur-Mer, 10 ans après la tempête Xynthia.
Et puis on vous présente 3 Divarius, violons fabriqués par un ordinateur et une imprimante 3D. Vous entendrez son son.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
2 mardi soir, 3 hier matin, 1 hier soir.
6 nouveaux cas de coronavirus en 2 jours. 18 personnes au total ont été touchées en France. 12 guéris, mais l'annonce d'un deuxième mort, le premier de nationalité française.
Un homme de 60 ans, enseignant dans un collège de l'Oise, décédé d'une embolie pulmonaire mardi soir. Il n'avait pas voyagé récemment dans l'une des zones à risque. Alors, comment a-t-il été infecté? Une enquête est lancée pour retracer son parcours.
Et l'inquiétude dans son village à Vaumoise, dans l'Oise, à 1 000 000 d'habitants. Commune plongée très soudainement au cœur de cette crise sanitaire. Jean-Jacques Herry s'est rendu sur place auprès d'habitants parfois déboussolés.
Le départ c'était en Chine et ça arrivait ici. Ça fait peur un peu. On peut se dire, on peut tous l'attraper maintenant du coup.
Depuis hier, la question taraude les habitants de Vaumoise. Quel a été l'itinéraire du coronavirus depuis la Chine ou depuis l'Italie pour arriver dans leur petite commune aux confins de l'Oise et de l'Aisne ?
Ce monsieur apparemment n'a pas voyagé. D'où il a attrapé ça ou avec quelle personne il a été en contact ? Ça se propage trop vite.
Le 12 février dernier, juste avant les vacances scolaires, l'enseignant en technologie est placé en arrêt maladie. Ses symptômes s'aggravent jusqu'à nécessiter une hospitalisation, mais jusqu'à récemment, jamais l'hypothèse d'une infection au coronavirus n'est évoquée, tout simplement parce que jusqu'à maintenant, tous les malades confirmés revenaient d'une zone à risque. Or, pour ce sexagénaire, également conseiller municipal, pas de voyage en Chine, pas de séjour en Italie. Son cas est unique, on ne sait pas comment il a été contaminé, une première en France dans cette crise sanitaire. Jean-Michel en est bien conscient. Maintenant, cela peut toucher tout le monde, dit-il.
Quand on voit le confinement qu'il y a eu en Italie, là, les gens qui attendaient devant les magasins, je me dis que là, s'il y a un cas ou deux dans le coin, ça va finir par arriver, quoi.
Selon la préfecture de l'Oise, tout risque de contamination est écarté depuis 3 jours. Aucune mesure de confinement n'a donc été prise dans la commune. Vaumoise, Jean-Jacques Herry. Europe 1.
4 personnes restent hospitalisées en France, dont un autre homme originaire de ce même département, l'Oise, soigné à Amiens. Il est dans un état grave.
Lui non plus n'avait pas voyagé dans une zone à risque. Les autres cas n'inspirent pas d'inquiétude.
Par précaution, le carnaval de Nice et la fête du citron à Menton sont arrêtés prématurément. Le match de foot Lyon-Juventus-Turin s'est quant à lui tenu comme prévu. 3000 supporters italiens présents hier soir dans les rues de Lyon, puis au stade.
Un déplacement autorisé alors qu'il y a bien des cas dans la région de Turin, contrairement à ce qu'affirmait avant-hier le ministre de la Santé. Le virus était-il dans l'air ? On le saura dans les prochains jours. Mais hier soir, Lyon a créé l'exploit. La grande Juventus est tombée 1-0. C'est l'insouciance qui régnait. Pierre Herbulot.
Les joues rouges, le teint blafard, les symptômes sont clairs pour Marco, maillot de la Juve par-dessus sa doudoune. Il a la mine des soirs de défaite. Le coronavirus ?
Fantasme.
Une psychose, d'après ce Turino.
Una cosa ridicola.
Je trouve ça complètement ridicule.
Un discorso
parce que c'est un discours qui ne tient pas debout. Et puis dans le stade, je n'en ai pas entendu parler. Et je n'ai vu personne porter un masque.
Alors si, une poignée de fans de l'OL a quand même pris cette précaution, comme Sylvain et ses 2 enfants.
J'ai préféré mettre un masque pour les enfants, pour les rassurer. Et on vit quand même, on va pas non plus... Mais on se méfie un peu.
Contrairement à la grande majorité des supporters qui a plutôt vu un excellent sujet de plaisanterie.
Ouais, ça peut être trop gênant. On s'attendait à plus les entendre que ça. C'est peut-être certainement l'atout qu'ils devaient avoir qui leur ont coupé la voix.
On les a contaminés à la défaite. Mais...
On a croisé une personne quand même qui s'est éternuée dessus. Hein. Je vous dis sincèrement, en italien, on a bien rigolé. Après, c'est bon enfant. Voilà.
Risque de pandémie, soir de Ligue des Champions, tout est une question de priorité pour Samy qui n'a pas franchement peur d'être infecté.
Même si on l'a. On a tapé la Juve.
À Lyon, Pierre Herbulot, Europe 1.
Et premier cas en Amérique latine au Brésil. En Italie, 12 morts, plus de 300 malades. Ça n'empêche pas Emmanuel Macron d'y voyager aujourd'hui.
Sommet franco-italien prévu de longue date à Naples, a priori pas touché par l'épidémie, Jean-Rémy Baudot.
Autour du président aujourd'hui à Naples, une dizaine de ministres. Même chose côté italien. Fallait-il maintenir ce sommet ? Oui, sinon on arrête tout, répond sûr de lui un membre du gouvernement. L'Élysée reconnaît pudiquement, je cite, que le contexte est compliqué en termes de santé publique. Mais Paris a laissé Rome décider. Il aurait été malvenu que la France prenne l'initiative d'annuler. Si l'Italie l'avait fait, on aurait trouvé une autre date, affirme un conseiller. Emmanuel Macron prend-il un risque à venir ici aujourd'hui ? Aucun laisse entendre son entourage. Où qu'il aille, il est toujours accompagné de son médecin personnel. Pour l'Élysée, c'est un sommet important. Il y a encore un an, France et Italie ont connu une montée de fièvre sur fond de tensions entre Emmanuel Macron et Matteo Salvini. L'heure est désormais à la réconciliation. Coronavirus ou pas, Paris et Rome veulent montrer que leur relation n'est plus grippée. Naples, Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
Le Premier ministre Édouard Philippe réunit quant à lui à Matignon ce matin les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée pour un point sur la situation.
Europe 1, il est 6h36.
Direction Strasbourg, à 17 jours du premier tour du scrutin municipal. Nouveau sondage exclusif, BVA Orange pour Europe 1, nous révélant ce matin la percée de Catherine Trottmann, l'ancienne ministre socialiste, 17% d'intention de vote.
Elle serait alors au centre du jeu pour le second tour. Elle pourrait négocier une alliance, sa liste est troisième, selon notre sondage. Derrière les Verts, 25% d'intention de vote, et la liste La République En Marche en tête avec 27%.
Les 27 et 28 février 2010, la France était durement frappée par la tempête Xynthia. 47 morts, dont 29 dans le seul village vendéen de la Faute-sur-Mer.
Pour Europe 1, Charles Guyard est retourné sur place. Beaucoup d'habitants, ces 10 dernières années, ont effectué des travaux dans leur maison par peur d'un retour des inondations.
Nous avons fait une zone de survie de 11 mètres carrés.
Il y a 10 ans, la norme ici, c'était le plein pied. Depuis Xintia, de plus en plus de maisons, comme celle de Frédéric, disposent désormais d'un étage supplémentaire. Une simple chambre, en fait, avec un lit, une place et une table de chevet en haut d'un petit escalier.
C'est pas une grande pièce, mais vraiment, en cas où, on sait jamais.
On ne sait jamais, car au fond de cette impasse, on est en zone rouge, un mètre seulement au-dessus du niveau de la mer. Et pour Frédéric, ce palier en plus ne suffit pas à se sentir vraiment en sécurité.
La mer est derrière chez moi, hein. Elle est à 50. Si à mon avis ça doit se reproduire, ça passera au-dessus. Hein. Ça ne me fait pas d'illusions.
Frédéric s'est donc équipé pour faire face à une éventuelle nouvelle montée des eaux. Direction le garage maintenant, où une bouteille de gaz est placée en évidence non loin d'une collection de lampes à batterie.
Elle est pleine pour me chauffer, ou faire à manger, ou juste avec une bouteille de gaz.
J'ai une lampe frontale, j'ai une pile sur batterie, j'ai toujours à charger. Là, j'en ai une autre là, qui se déplie. La nuit où je suis sorti, malgré qu'il faisait presque jour dehors, j'avais pas tout ça à portée de main. Je cherchais une lumière, mais j'en avais pas.
Et voilà, Frédéric prêt à affronter les éléments, en espérant évidemment que cela ne serve jamais. La faute sur mer, Charles Guyard, Europe 1.
Et les commémorations officielles sont prévues dimanche dans la commune. Connaissez-vous le concept de café joyeux? Ces établissements emploient en majorité des commis de cuisine ou des serveurs atteints d'un handicap mental ou de troubles cognitifs.
On en a beaucoup parlé sur Europe 1, évidemment dans La France Bouge, puisqu'il a reçu un trophée de l'avenir, justement l'initiateur de ces cafés joyeux. Et puis ici même pour la journée du handicap, il y a quelques jours encore, il y a un café joyeux à Rennes, à Paris, dans le quartier de l'Opéra. Et très bientôt, le 10 mars, ouverture d'un café joyeux sur les Champs-Élysées. Rien que ça, visite avec Yasmina Katou.
230 mètres carrés répartis sur deux étages à quelques pas de l'Arc de Triomphe. Une décoration feutrée tout en noir, jaune et doré. Un café chic et joyeux où travaille Arnaud, il est trisomique.
Je travaille de chez Joyeux depuis un an et demi.
Arnaud a débuté sa carrière de serveur au café Joyeux du 2e arrondissement de Paris. L'homme de 40 ans se réjouit de travailler sur la plus belle avenue du monde.
Le Champ Élysées, c'est beau, c'est magnifique.
Ça y est, sur les Champs-Élysées, il y a plein de touristes. Est-ce que ça vous fait peur?
Même pas, faut aller direct.
Arnaud fait partie d'une équipe de 19 serveurs, tous handicapés. Pour gérer sa brigade, Sébastien, le manager, devra s'adapter.
On va peut-être avoir trop de monde au début par rapport à la capacité qu'on aura à servir. Les joyeux ont des plannings à 5 heures par jour au maximum. On servira probablement plus lentement que dans un autre café. Si à un moment on doit réduire un peu la cadence, on appuiera sur la pédale de frein.
Un beau défi à relever selon Sébastien. Ouverture prévue le 9 mars prochain au 144 avenue des Champs-Élysées.
Le violoniste Renaud Capuçon à l'œuvre. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vous fais écouter Renaud Capuçon au violon.
A pour priori, le plaisir déjà.
C'est un immense plaisir, mais c'est plutôt attendu. Vous serez d'accord. Ce violon qu'utilise le virtuose, il est électrique et il a été fabriqué par une imprimante 3D. Il a été conçu par un ordinateur.
Hier soir, Renaud Capuçon a donné un concert entier au Jardin des Plantes à Paris avec cet instrument du futur baptisé le 3D Varius. Un plaisir pour le violoniste qui pratique pourtant d'habitude sur un instrument italien du 18e siècle.
C'est assez fascinant quand même de jouer cet instrument qui est l'instrument un peu du 21e voire du 22e siècle. Alors que moi-même, je joue un Guarnarius de 1737. C'est le grand écart. Le son ne sort pas par le violon, puisque c'est un violon qui est amplifié. C'est un peu plus lourd, c'est beaucoup plus fin, puisqu'il n'y a pas tous les bords, il est un peu creux. Il n'y a que le squelette du violon, il est transparent, c'est assez impressionnant comme allure. Et on le pose sous le menton de la même façon, il y a un manche, pareil. Et après, c'est les différences comme quand on change de violon. Mais c'est franchement une expérience assez incroyable.
Renaud Capuçon au violon, et il était joint par ailleurs par Thierry Geffrotin. Et puis pour finir, Ombline Mathieu, je ne résiste pas ce matin à ce classique de la chanson enfantine.
Il était un petit homme, pirouette, cacahuète.
Ah oui, pirouette, cacahuète, ces jolies paroles sont l'œuvre de la poétesse sartoise Gabrielle Grandière. Et on a appris hier son décès à 99 ans.
De Renaud Capuçon à Pirouette Cacahuète. Non, mais vous avez raison.
C'est
vous
ça,
avez raison. Parce que moi, je ne connaissais pas Gabrielle Grandière, vous voyez. Et pourtant, tout le monde connaît cette chanson. Évidemment. Merci, Jérôme Lacroix. Le journal à 7h tout à l'heure avec Simon Rubin. Et nous vous emmenons dans les coulisses d'un dépistage du coronavirus, justement, à 7h tout à l'heure. 6h41.
La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec votre invité, Mathieu, le président de la Confédération des syndicats médicaux français, Jean-Paul Ortiz.
Bonjour Jean-Paul Ortiz.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Je reprends donc ce communiqué de la Confédération des syndicats médicaux français que vous présidez, premier syndicat de médecins. Épidémie de coronavirus, les médecins libéraux en première ligne. C'est un véritable coup de gueule que vous poussez contre les pouvoirs publics. Nous, les médecins libéraux, les médecins généralistes, les médecins du quotidien finalement, on est en première ligne et on n'est pas forcément prêt à affronter ce coronavirus.
Écoutez, il faut être réaliste. Les Français, lorsque ils auront un syndrome viral comme il y en a pendant l'hiver, ils toussent, ils ont un peu de fièvre, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez leur médecin généraliste. Et je vous rappelle que les médecins généralistes accueillent des Français à hauteur d'un million de personnes tous les jours dans leur cabinet. C'est énorme.
Sauf qu'on dit, Jean-Paul Ortiz, on a bien dit et répété ici même aux Français qu'en cas de symptômes, ils appellent le 15. Ils ne vont pas voir leur médecin, ils appellent le 15.
Mais est-ce que vous croyez qu'un Français, il est capable de faire la différence entre la petite grippe ou le syndrome viral de l'hiver, la petite rhinopharyngite et une suspicion de coronavirus. Bien sûr qu'un certain nombre appelle le centre 15, et c'est bien, et je peux vous dire, pour avoir eu des contacts avec des confrères au centre 15, ils sont inondés d'appels qui sont d'ailleurs plus des appels souvent pour rassurer qu'autre chose, mais bien évidemment l'activité dans les cabinets médicaux elle se poursuit, y compris avec des pathologies hivernales. Or, les médecins libéraux, on a reçu des mails de la Direction Générale de la Santé, des agences régionales de santé, etc.
Oui,
etc.
J'allais vous demander...
Mais c'est pas avec les mails qu'on va se protéger. Les mails, ça va pas protéger du coronavirus.
Bien sûr, Jean-Paul Ortiz. On est d'accord quand même, j'allais vous poser la question, qu'on soit bien précis là-dessus. Vous avez des échanges réguliers avec les autorités de santé, toutes celles qui dépendent du ministère de la Santé, évidemment. Vous n'êtes pas laissé abandonner à vous-même.
Bien sûr que non. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que aujourd'hui, on a pris des mesures avec, par exemple, des masques de protection qui sont des masques un peu spécifiques pour les soignants, qui sont ces fameux masques
canard.
FFP2,
voilà, le fameux
masques canard, absolument. Ouais. On n'a pas eu de dotation de masques, on n'a pas eu de dotation de lunettes, on n'a pas eu aujourd'hui une aide, par exemple, pour les solutions hydroalcooliques. Il faudrait qu'il y en ait partout et des litres partout. Comment on fait pour en avoir en plus, etc., etc. Tout ça, ce sont des éléments très pratico-pratiques.
Bien sûr.
Qu'aujourd'hui, les médecins libéraux n'ont pas.
Là, qu'on soit bien d'accord, vous demandez des moyens, en fait, et du matériel précisément pour pouvoir accueillir éventuellement des Français qui, si l'épidémie s'installait en France, parce qu'il n'y a pas d'épidémie en France pour l'instant, si l'épidémie s'installait en France, vous dites on va en recevoir plein dans nos cabinets, il faut qu'on soit prêt.
Bien sûr, et de plus, s'il y a une épidémie, il faudra maintenir le plus possible les patients à domicile. Je rappelle que ce fameux Covid-19 n'est pas un virus extrêmement agressif, puisqu'on a 2 à 3% de mortalité, mais il faut essayer de s'en protéger, parce que sinon on va avoir une épidémie avec un nouveau virus. C'est bien ça le problème, c'est que par rapport à la grippe, vous avez un nombre important de patients qui sont protégés vis-à-vis de la grippe. Donc, ils ne vont pas la transmettre. Dans le cas du Covid-19, c'est pas le cas. On n'a pas de virus, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de protection.
Oui. Vous dites avec la grippe saisonnière que ceux qui sont vaccinés, au moins, ne la transmettent pas. Alors, vous avez dit une chose importante, Jean-Paul Ortiz, vous avez dit que les Français qui pourraient être vos patients ne vont pas forcément, sur leurs symptômes, faire la différence entre la grippe saisonnière, un rhume ou ce Covid-19. Le médecin généraliste, mon médecin traitant, mon médecin de famille, il est capable, sur des symptômes comme ça, de faire la différence entre les maladies comme ça ?
Il pourra voir si votre situation clinique, si vous êtes ce qu'on appelle un cas suspect, c'est-à-dire si vous pourriez correspondre à la définition de cette infection virale. Et à ce moment-là, lui-même prendra contact avec un spécialiste d'infectiologie qui est aujourd'hui situé dans les centres hospitaliers départementaux, et tous les centres hospitaliers départementaux ont été mobilisés de façon à ce que ce qu'on appelle un cas suspect puisse être classé dans les cas dits possibles après avis de cet infectiologue. Et si c'est un cas possible, à ce moment-là, il va falloir voir comment on le confirme par un test biologique. Donc, vous voyez, il y a trois étapes. le cas qui est suspect, celui qui est le tout venant dans nos cabinets, celui qui sera confirmé après avis médical, et celui qui sera rendu possible après avis médical, et celui qui sera confirmé après un prélèvement biologique, parce que le diagnostic, il est affirmé par un prélèvement biologique.
Oui, mais parce qu'en l'état, comme ça, c'est pour ça que je vous posais la question, ça ne saute pas aux yeux, évidemment, et les symptômes peuvent se croiser. Je voudrais récapituler les échanges administratifs, ça vous les avez avec les autorités de santé, oui. Et vous me disiez, ce ne sont pas des mails qui vont nous sauver, évidemment. L'équipement, ça c'est ce que vous demandez, des masques, du gel hydroalcoolique, des équipements tout simplement pour éviter à la fois d'être contaminé, puis de recontaminer tout le reste de la patientèle.
On nous dit utiliser les masques que vous aviez pour la grippe aviaire il y a une dizaine d'années. Attendez, vous pensez qu'il y en a dans beaucoup de cas, on ne sait même plus où on les a. Donc, et au moment de la grippe aviaire, on a eu des dotations de masques. Il faut que ça aille vite.
Et vous dites, très vite, et vous demandez aussi, Jean-Paul Ortiz, je voyais dans le détail, que peut-être dans l'organisation, l'État organise l'accueil des patients qui auraient un doute, qui se poseraient des questions dans des lieux dédiés, plutôt que de les faire s'installer dans votre salle d'attente, si j'ose dire.
Je salue les initiatives de certaines URPS, c'est-à-dire les unions régionales des médecins, qui en lien avec les ARS, dans certains endroits, sont en train d'organiser avec les collectivités locales, avec les mairies, des locaux spécifiques.
Oui, pour éviter de contaminer toute une salle d'attente.
Exactement.
Ça, on peut le
comprendre. Pour éviter que les patients viennent tous dans nos salles d'attente.
Et le médecin lui-même qui doit rester en bonne santé pour pouvoir soigner ses patients. Jean-Paul Ortiz, vous avez peur de ce coronavirus, les médecins ?
Écoutez, franchement, non, parce que c'est pas un virus extrêmement agressif. Encore une fois, je le répète, c'est 2 à 3 % de mortalité, ce qui est pas rien. Je voudrais quand même rappeler aux auditeurs d'Europe 1 qu'aujourd'hui, la grippe tue tous les ans plusieurs milliers de Français. Et suivant les années, on est autour de 10 000 Français qui meurent tous les ans de la grippe. Est-ce que tous les Français sont vaccinés ? De toute évidence, non. Même les populations les plus à risque, les populations âgées, et ce sont elles qui sont le plus exposées au Covid-19, même ces populations les plus âgées, elles sont pas forcément vaccinées contre la grippe. Ce qui est bien dommage, parce qu'il semblerait que le vaccin contre la grippe protège sur la gravité du Covid-19. Donc, aujourd'hui, ramenons les choses à leur juste proportion, nous sommes devant une épidémie où personne n'est protégé. Donc, c'est extrêmement transmissible.
Du matériel, on a bien compris que c'est la première revendication des médecins que vous représentez, Jean-Paul Ortiz, du matériel, justement, pour pouvoir accueillir tous ces patients qui vont arriver avec plein de questions et comment ne pas les comprendre. Jean-Paul Ortiz, en direct ce matin sur Europe 1, les acteurs de l'actualité avec la Confédération des syndicats médicaux français. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Ortiz. Merci d'avoir répondu à nos questions. 6h49.
Merci, bonne journée.
Europe 1, une fenêtre ouverte sur le monde, à suivre la revue de presse internationale sur Europe 1.
Nous partons pour l'Espagne, le Royaume-Uni, la Russie. À tout de suite.
À 6h50 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Béliard.
Comment l'enseignant sexagénaire mort mardi soir des suites du coronavirus a-t-il été contaminé ? La question obsède les autorités parce que cet homme n'avait pas voyagé récemment dans une zone à risque. Une enquête est en cours. Les municipales avec ce sondage exclusif Orange Europe 1 pour la ville de Strasbourg. La socialiste Catherine Trottmann arriverait troisième au premier tour et jouerait les arbitres entre En Marche et Les Verts. Et puis hier soir, les footballeurs de Lyon ont battu la Juventus de Turin à domicile. 1-0, huitième de finale aller de la Ligue des Champions.
La météo, la pluie arrive par l'ouest et lorsqu'elle atteindra les régions de l'est, elle va se transformer en neige de la frontière belge aux Alpes. Cette pluie qui persistera dans les Pyrénées, le Massif central, la région lyonnaise. Il fera cet après-midi 4 à Metz et Gap, 11 à Chartres, 13 à Nantes et Agen. La revue de presse internationale sur Europe 1.
À 6h50, comme tous les matins, notre réseau de correspondants sur tous les continents. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Henri Delaguéry est à Barcelone pour Europe 1. Bonjour Henri.
Bonjour Mathieu.
Et à la une en Espagne, une polémique sur un carnaval accusé de banaliser l'Holocauste.
Oui, des dizaines de personnes habillées en costume nazi ou accoutrées à l'image des prisonniers juifs des camps de concentration ont défilé sur de la musique disco dans la petite ville de Campo de Criptana au sud de Madrid ce week-end. Depuis deux jours, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Elle a provoqué l'indignation et la colère d'Israël, explique le journal ABC. C'est une représentation ignoble et dégoûtante, banalisant l'Holocauste, a dénoncé sur Twitter l'ambassadeur israélien à Madrid. La ministre des Affaires étrangères espagnole Arantxa González n'a pas tardé à réagir et s'est déclaré horrifié. Les responsables du carnaval ont tenté de se justifier auprès de l'agence Europa Press. Il s'agissait de rendre hommage aux victimes. Dans le quotidien local de la Mancha, le maire de la ville a présenté ses excuses. Nous comprenons les critiques, c'était complètement raté.
Henri Delaguéry à Barcelone pour Europe 1. Écoutons le monde changer au Royaume-Uni. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ?
Eh bien, comme le titre Le Guardian, c'est le projet de loi révolutionnaire de l'Écosse. Le pays devient le premier au monde à voter la gratuité des protections hygiéniques, écrit The Times. 112 voix pour, aucune contre. Les serviettes et les tampons devront être accessibles à toutes celles qui en ont besoin. Une première étape pour mettre fin à la précarité menstruelle, selon la BBC. The Independent rappelle qu'en Écosse, une jeune femme sur quatre, au lycée ou à l'université, a déjà manqué le moyen pour acheter des protections hygiéniques. Alors, on ne sait pas encore comment ce programme va fonctionner, mais selon le tabloïd de Glasgow, le Daily Record, il devrait coûter environ 28 millions d'euros. Pour The Herald, un journal écossais, le projet est pour l'instant impraticable. Des amendements doivent être encore votés pour pouvoir l'appliquer.
Johanna Chabas à Londres pour Europe 1. Elena Voloshin est à Moscou. Bonjour Elena.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous ?
Alors à la une de la presse en Russie, l'ex numéro 1 mondial du tennis féminin, ex-fierté des Russes, Maria Sharapova, met fin à sa carrière, 5 fois vainqueur des tournois du Grand Chelem, première championne russe à Wimbledon, rappelle le quotidien Commerçante. En 2012, elle fut le porte-drapeau de l'équipe russe aux Jeux Olympiques de Londres. Elle ne fut toutefois pas épargnée par le scandale de dopage qui a secoué le sport russe. Le quotidien Vedomosti revient sur l'année 2016 lorsque Sharapova, testée positive au meldonium, fut disqualifiée pour 2 ans par la Fédération internationale de tennis. Une fin de carrière annoncée, non pas dans la presse russe, mais dans le quotidien américain Vanity Fair de son pays de résidence, les États-Unis, à 32 ans et désormais au 373e rang mondial. Tennis, je te dis adieu, a écrit Sharapova.
Elena Voloshin à Moscou. Pour Europe 1, nous étions donc en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne. C'est la revue de presse internationale et c'est tous les matins. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. La météo de Laurent Cabrol, à 7h, le journal de Simon Rubin.
Et Mathieu Noël qui va s'installer en studio et qui nous rejoint juste avant le journal, comme tous les matins. À tout de suite.
6h55, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et Mathieu Noël qui nous a rejoint en studio. Bonjour Mathieu.
Bonjour Ambline, bonjour, bonjour mon cher Mathieu. Cet après-midi, je vous donne rendez-vous pour une édition très musicale de l'Équipée Sauvage. Alors, je sais, c'est pas très original. Vous aussi, dans la matinale, vous avez fait des spéciales où les auditeurs ont pu découvrir vos talents vocaux. Pas un jour d'ailleurs sans qu'on reçoive des lettres de remerciement. Cet après-midi, on reçoit nous l'auteur d'une chanson culte dans laquelle on s'est tous reconnus un jour ou l'autre, soit en avalant un cure-dent, soit en marchant sur un tout petit Lego. La tristitude.
La tristitude, c'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à nos gens le retrouve. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets rouges.
Hold Love sera avec nous pour une émission qui sera à l'exact inverse de la tristitude, hein, gaie et rieuse, en compagnie comme d'habitude des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se disputent le titre de chroniqueur du jour, qui aura, je le rappelle, un impact sur leur avancement, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Parmi nos journalistes stars du jour, le chef du service éco, Emmanuel Duteil, qui n'a pas attendu de venir dans l'Équipée Sauvage pour se faire charrier. Il prend déjà assez cher avec vous le matin, Mathieu.
C'est un nouveau pull, ça. Oui, mais qu'à rétrécir au lavage.
Oui, oui, moi aussi, je dis que les vêtements rétrécissent quand je prends du poids.
Oh, j'essaierai de faire aussi bien, mais dis donc. Vous charriez vous aussi, Mathieu. Si on s'y met tous, ils vont tous partir sur notre radio, les journalistes.
C'est très beau ce pull, cela dit. Je m'en souviens. Merci, Mathieu Noël.
À tout à l'heure avec Emmanuel Duteil et d'autres.
On peut vraiment plus rien dire dans ce pays. Vous l'avez déjà entendu, cette phrase. On peut plus rien dire dans ce pays.
Surtout.
Moi, c'est à cause de Mathieu Noël. 16h18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1, bien sûr. Il est 6h57.
La rue a son message. Plus jamais de naufrage. Ne jamais dire dommage et ne plus être otage.
Il faut que je sois parfaitement honnête avec vous. Je ne connaissais pas Lionel D. Lionel Eguenta. C'était son vrai nom, on a appris sa disparition à l'âge de 61 ans. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous en parler ? Parce que Lionel D est présenté comme un pionnier, si ce n'est le fondateur du mouvement hip-hop rap en France. On est au début des années 80, il est aussi à l'époque sur Radio Nova par exemple, où il reçoit des petits jeunes que vous entendrez peut-être un peu après, NTM, Assassin, Le Ministère Amer, MC Solar. Lionel D a publié quelques morceaux que vous entendez derrière moi, on va en écouter un petit peu.
Les années 80. Les années 80.
Pilier fondateur du hip-hop français, décédé, pluie d'hommage depuis hier, depuis l'annonce de sa mort à Londres sur les réseaux sociaux, militant antiraciste, engagé contre les inégalités sociales. Il n'avait publié qu'un seul album, album qui porte le titre de ce morceau, Il n'y a pas de problème.
Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Y'a pas
36 manières, il faut du savoir-faire, tu peux comprendre et ressentir ça. Est-ce que y a pas de problème, c'est fait pour toi dans tout ce système où tu mènes un dur combat. T'as trop besoin de pèse, tu voudrais être à l'aise. Et difficile le style quand fragile dans la ville, tu t'y trimbales les poches vides.
Voilà, moi j'ai découvert et je voulais partager avec vous Lionel D, présenté comme le finalement le premier rappeur en France au tout début des années 80 et dont on a appris la disparition hier à l'âge de 61 ans. 6h58 autour de la table, toute l'équipe pour la demi-heure qui va démarrer. 7h15, l'innovation à Nice Mbida.
Et si on pouvait demander directement à un patient dans le coma s'il souhaite arrêter les soins, ce serait quand même beaucoup plus simple, hein. Eh bien vous allez voir que c'est possible en lisant dans ses pensées.
7h20, le monde bouge, Axel de Tarlé.
Des pâtes.
Oui mais des panzani.
Et voilà, vous connaissez le slogan? Eh ben, Panzani ressort son vieux slogan des années 70. On appelle ça le rétro-marketing et vous allez voir, c'est très efficace.
L'édito sport à 7h25, Virginie Fulpin.
Et Lyon a réussi l'exploit de battre la Juventus de Turin 1-0 en Ligue des Champions. Preuve que le foot, quand on y met du cœur, bah, ça peut vous transformer un crapaud en prince charmant.
Suivez mon regard pour le quand on y met du cœur, Virginie Fulpin, à tout à l'heure. Laurent Cabrol, la météo.
L'hiver dans toute sa dimension maintenant. Ça y est, la neige est arrivée. La neige, non, on n'est pas arrivé. La neige arrivera cet après-midi. Elle arrive aujourd'hui. Mais elle arrivera cet après-midi sur les régions de l'Est, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meurthe et Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Oise sont placés en vigilance orange par Météo France. Donc c'est de la neige qui arrive un peu retardement. Pourquoi ? Parce que c'était tout à fait prévu. C'est de la pluie d'abord qui est là maintenant sur toute la partie ouest de la France, des pluies souvent soutenues. Et ces pluies qui ont gagné Paris mesurent à peu près 400 km de large. Vous voyez qu'il y a un gros paquet de pluies et qu'ensuite, lorsqu'elles arriveront sur des régions où les températures sont plus basses, notamment les régions que je viens de citer, les départements, eh bien, elles se transformeront en neige. Ça ne va pas durer longtemps, ça ne va durer que 2 ou 3 heures, mais ensuite, vous retrouverez un ciel beaucoup plus clément, si je puis dire, mais avec soit de la pluie, soit des phénomènes glissants. Donc, prudence aujourd'hui partout, avec beaucoup de vent, on en parlera tout à l'heure, 80 à 100 km/h en ce qui concerne la vitesse du vent.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Bonjour, Simon Rubin.
Bonjour.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1, il est 7h.
On a des personnes qui reviennent d'Italie, qui se présentent avec des symptômes respiratoires. On en a à peu près une quarantaine par jour.
Il est là, le coronavirus arrive en France. Les médecins, les urgentistes et les chercheurs sont sur le pied de guerre. On vous emmène à Marseille dans les coulisses des dépistages du virus.
Doit-on s'inquiéter? Quels sont les risques finalement pour chacun d'entre nous? On répond à toutes vos questions avec notre spécialiste santé, Mélanie Gomez.
Le roi de l'évasion n'échappera pas à son procès en appel. Aujourd'hui, Redouane Faïd comparé avec 3 autres complices. Procès sous très haute surveillance, hors de question que l'accusé s'échappe à nouveau.
Au regard des antécédents de cet accusé, c'est effectivement une possibilité qui est nécessairement prise en compte par l'institution.
Le grand flou des tarifs SNCF, le yo-yo incompréhensible des prix pour un même trajet, c'est ce que dénoncent 60 millions de consommateurs.
Et puis en Dordogne, soyez vigilants, vous pourriez croiser une star américaine en plein tournage de film.
Matt Damon, quoi, un grand acteur américain. Je le vois passer, hein, on le voit passer en voiture et bon, ça fait plaisir.
Ça a de quoi troubler les riverains. Matt Damon, mais aussi Ben Affleck sont en France pour la nouvelle super production de Ridley Scott.
7h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Simon Rubin.
La France fait face ce matin à une épidémie. 18 cas de coronavirus sur le territoire, 2 morts. À Amiens, 1 homme dans un état grave, 15 millions de masques débloqués par le gouvernement. Alors on va faire le point avec vous, pour vous, sur ce qu'on sait du virus, des traitements, des perspectives, des réflexes à adopter.
En partant d'abord à Marseille, à l'Institut Méditerranéen d'Infectiologie, on vous emmène dans les coulisses des dépistages qui s'organisent dans ce pôle d'excellence de 25 000 mètres carrés dédié à l'étude et au traitement des épidémies. Le reportage de Stéphane Frangy dans cet avant-poste de la lutte contre le nouveau coronavirus.
De plus en plus sollicité, le microbiologiste Pierre-Édouard Fournier fait face à un afflux de personnes venues spontanément se faire dépister.
En ce moment, on a des personnes qui reviennent d'Italie en particulier, hein, qui sont allées soit au Carnaval de Venise, soit à Milan et qui se présentent avec des symptômes respiratoires. On en a à peu près une quarantaine par jour.
Donc voici les prélèvements tels qu'ils arrivent au laboratoire. Et c'est donc à partir de ces prélèvements-là, qui sont, vous le voyez, dans des tubes fermés de façon stérile, qui permettront ensuite les tests de détection.
Ces analyses durent 2 heures. Pendant ce temps, les personnes dépistées sont confinées. Et si jamais un cas positif devait être détecté, là encore, toutes les solutions sont à portée de main. Pierre-Édouard Fournier.
Nous sommes autonomes pour la prise en charge des patients de A à Z. Il sera acheminé au 3e étage par un ascenseur dédié. Il ne sera en contact ni avec le personnel, ni avec d'autres patients. Et il sera accueilli dans une chambre où il sera gardé en observation et les traiter jusqu'à ce qu'ils soient guéris.
Et ce traitement potentiel est un antipaludéen pour lequel l'Institut méditerranéen d'infectiologie est en train de constituer des réserves. Marseille, Stéphane Frangier, Europe.
Des dépistages, des nouveaux cas qui émergent, deux morts pour saisir tous les enjeux. On va maintenant se poser quelques instants avec vous, Mélanie Gomez, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Mélanie, on l'entend dans le reportage à Marseille, c'est un peu la course à l'armement. Tout le monde cherche un traitement pour ce qui n'est pas encore une épidémie, mais qui pourrait le devenir. On est d'accord, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de remède miracle.
Non, aucun traitement spécifique contre le coronavirus chez l'être humain n'a été validé de façon sérieuse à ce jour. Pour revenir sur la chloroquine, cet antipaludéen, le ministère de la Santé l'a confirmé hier soir. À ce stade, ce médicament n'a pas confirmé son efficacité sur des patients. Cette piste existe, mais n'a fait preuve de son intérêt que dans des tubes à essai.
À 6h40, Jean-Paul Ortiz, président du premier syndicat de médecins libéraux, était notre invité sur Europe 1. Il est quand même très inquiet, notamment pour les médecins qui sont en première ligne. C'est préoccupant.
Oui, en tout cas, ce qui s'est passé dans l'Oise est préoccupant. Deux patients ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. L'un est même décédé sans que l'on sache à ce stade comment ils ont été contaminés. Or, jusque-là, pour tous les cas déclarés en France, on a toujours réussi à remonter la chaîne de contamination jusqu'au patient zéro. Là, on est encore dans une zone d'ombre. Mais les autorités mènent l'enquête très activement.
À titre individuel, Mélanie, vous, moi, nos auditeurs, est-ce qu'on doit s'inquiéter ?
Alors non, Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a confirmé hier soir. En France, à ce jour, il n'y a pas d'épidémie. 18 cas, 2 décès. Pour vous donner une idée, la grippe, c'est chaque hiver plusieurs centaines de milliers de cas et environ 10 000 décès. Il faut préciser aussi qu'être infecté par le coronavirus, ce n'est pas une condamnation à mort. Loin de là, sur 100 personnes touchées, 80 vont guérir spontanément, 15 auront besoin de soins et chez 5, ce sera plus sérieux, 2 ou 3 vont décéder. Donc il faut relativiser sans fermer les yeux sur le risque de mortalité. Et à titre individuel, le conseil principal pour éviter d'être potentiellement contaminé, il est simple et efficace. Lavez-vous les mains. On conseille désormais de le faire toutes les heures. Rappelons qu'en moyenne, nous touchons machinalement notre visage 3000 fois dans une journée.
Mélanie Gomez, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1 et le coronavirus. On en reparle évidemment dans le journal de 8h. On sera notamment avec Odile Launay, infectiologue et responsable du centre de vaccinologie de l'hôpital Cochin.
Et Mélanie Gomez en parlait dans l'Oise. Situation très confuse après le décès de cet homme de 60 ans. Les enquêteurs doivent maintenant répondre à une question urgente. Comment cet homme a-t-il été infecté par le coronavirus ? Le récit d'Hélène Terzian.
Il n'avait, semble-t-il, pas séjourné dans une zone à risque, ne rentrait apparemment ni de Chine ni d'Italie. Voilà pourquoi, à son admission à l'hôpital de Creil, cet enseignant de 60 ans suit un parcours médical ordinaire pour un homme en très mauvais état de santé. Service de réanimation, des tests passés durant plusieurs jours, jusqu'à ce que le personnel médical envisage le très improbable, le coronavirus. L'homme est transféré à la Pitié-Salpêtrière, test positif, avant son décès d'une embolie pulmonaire dans la nuit de mardi à mercredi. Et d'après plusieurs sources au sein de l'hôpital de Creil, rien n'a été sous-estimé. Problème, plusieurs soignants ont été en contact avec le porteur du virus. Ils sont en train d'être identifiés. Certains sont déjà placés en quarantaine à leur domicile. Autre souci, le service de réanimation est fermé depuis hier et ce pour une durée de 14 jours.
Et conséquence sur le plan économique du coronavirus pour réduire l'effet de la maladie sur ses comptes, la compagnie Air France va prendre de nouvelles mesures d'économie allant de la réduction des dépenses au gel de certaines embauches. C'est ce que dévoile un courrier interne de l'entreprise. On y reviendra dans le journal de 8h.
Et puis économie toujours, il y a un secteur qui fait plus que se poser des questions, c'est l'industrie pharmaceutique. Des malades qui n'ont rien à voir avec le coronavirus vont-ils manquer de médicaments ? 60% des principes actifs, la matière première du médicament, provient d'Asie, de Chine et d'Inde notamment. À 7h40, le vice-président du géant français Sanofi sera notre invité dans ce studio sur Europe 1.
Il est 7h07.
Il ne devrait pas échapper à son procès en appel qui commence aujourd'hui. Redouane Faïd, le roi de l'évasion, comparait à Saint-Omer.
Vous vous souvenez peut-être de sa fuite de prison à l'explosif en 2013 ou plus récemment de son évasion en hélicoptère en 2018. Alors c'est un personnage, une figure du milieu criminel qui débarque pour son procès dans la campagne du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Lionel Gougelot.
Un palais de justice sous haute surveillance policière, le procès de Redouane Faïd intrigue et inquiète un peu les habitants et les commerçants du quartier.
Moi j'ai des clients qui m'ont dit « Oh, c'est un personnage, ça craint ». Il y en a quand même qui s'inquiètent un peu. Après je vous avoue, parfois je prends mon petit garçon pour venir, je vais éviter de le prendre. On sait jamais.
Renfort de police, périmètre de sécurité, interdiction de survol, tapis à rayon X à l'entrée du tribunal un dispositif pour contrer une tentative d'évasion, menace forcément présente à l'esprit du procureur Patrick Leleu.
Au regard des antécédents de cet accusé, qui s'est déjà évadé dans notre région et ailleurs, et de manière assez spectaculaire. Donc c'est effectivement une possibilité qui est nécessairement prise en compte par l'institution.
Guillaume Terrard, sous-préfet de Saint-Omer.
C'est un dispositif qui a été réfléchi depuis un an et qui est adapté à la menace. Donc les moyens ne seront pas non plus extravagants.
Il en a quand même coûté 250 000 euros. Des mesures complètement disproportionnées tonnent les avocats de Redouane Faïd. Ce dernier est en grève de la faim depuis une semaine, dans un état de grande faiblesse. Une expertise médicale a été ordonnée pour savoir s'il est en état de comparaître. Réponse en début d'audience. À Saint-Omer, Lionel Gougelot, Europe 1.
Elle est l'un des derniers porte-drapeaux du PS. L'ancienne ministre Catherine Trottmann pourrait être l'élément décisif de l'élection pour la mairie de Strasbourg. Elle est troisième derrière la liste LREM-UDI Modem, qui est en tête, et le tandem PC Europe Écologique est deuxième. C'est l'un des grands enseignements de notre sondage BVA Orange pour Europe 1.
Et avec nous pour en parler ce matin, Adélaïde Zulfi-Karpassik, directrice de BVA Opinion. Bonjour.
Bonjour.
Le Parti Socialiste troisième, comment vous l'expliquez ?
Bah, c'est pas tellement une surprise. Je vous rappelle que le maire sortant, qui ne se représente pas, Roland Ries, est lui-même issu du Parti Socialiste. C'est une ville qui, depuis des années, aussi régulièrement entre des maires LR, des maires PS. Donc, on a une ancienne maire qui, je le rappelle, en fait, a repris la liste Parti Socialiste alors que le candidat désigné par le parti, Mathieu Kahn, a dû se désister. On pensait le PS hors course, effectivement, avec un match qui se dessinait entre la candidate Europe Écologie Les Verts et le candidat de La République En Marche. Or, Catherine Trottmann, qui a une meilleure notoriété que son prédécesseur, apparaît en mesure de capter une partie de ses voix. Alors, elle sera que troisième, pas en mesure d'être vraiment la candidate qui va remporter l'élection. En revanche, on voit qu'au vu des scores serrés entre la liste LREM 27% et la liste Europe Écologie Les Verts 25%, Catherine Trottmann, qui peut se maintenir au troisième tour, va être un petit peu décisive dans les alliances de second tour.
Et élection d'autant plus ouverte que deux autres listes pourraient se maintenir, les Républicains et le Rassemblement National, qui sont pas si mal placé en tout cas.
Exactement. La liste LR serait à autour de 15%. La liste du Rassemblement National pourrait faire comme la précédente élection en 2014, 10%. Et donc, on pourrait avoir 5 listes qui se maintiendraient. Il est plus vraisemblable qu'on se dirige vers une quadrangulaire avec une alliance de Catherine Trottmann avec l'un ou l'autre des principaux candidats. Et on voit, au vu de notre sondage, que le rôle de Catherine Trottmann sera décisif, car en fonction de à qui elle s'allie, ce sera déterminant pour la victoire au second tour.
Merci Adélaïde Zulfi-Karpassik, directrice de BVA Opinion, notre partenaire pour ce sondage exclusif BVA Orange et Europe 1, à retrouver en détail évidemment sur europe1.fr.
Nous venons de l'apprendre, un incendie cette nuit à Strasbourg a fait, selon les pompiers, 5 victimes, hein, Julien Pierce.
5 victimes et 7 personnes blessées, bilan très lourd après cet incendie qui s'est déclaré aux environs d'une heure du matin dans le quartier de la gare à Strasbourg, rue de Bar, très exactement. Les pompiers ont été appelés dans la nuit pour un dégagement de fumée dans la cage d'escalier d'un immeuble de 7 étages. Les blessés ont été pris en charge par les équipes du SDIS et du SAMU. Les pompiers ont dû faire face à de nombreux sauvetages et mises en sécurité en raison de l'épaisse fumée qui avait envahi les lieux communs. On ignore pour l'heure les causes de cet incendie. Les personnes non blessées, une vingtaine environ, ont été accueillies dans un gymnase de la municipalité. Incendie dont je vous rappelle le bilan provisoire donné par les pompiers. 5 morts et 7 blessés.
Julien Pierre sur cet incendie, la nouvelle qui vient de nous parvenir.
Vous restez avec nous dans un instant, on va parler de l'opacité des tarifs SNCF. Oui, dans un même wagon, plusieurs tarifs différents et on ne les explique rarement. On va en discuter avec 60 millions de consommateurs et vous allez entendre que ce n'est pas le seul reproche que les usagers font à la SNCF. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h12, la suite du journal. Mathieu Béliard, Simon Rubin.
Vous êtes déjà sûrement fait la réflexion. Difficile de s'y retrouver dans les tarifs pratiqués par la SNCF. Parfois, on prend ses billets avec des mois d'avance, sans faire d'économie manifeste. Un flou sur les tarifs que dénoncent 60 millions de consommateurs.
Bonjour Benjamin Dourier.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs. SNCF, tout déraille. Et c'est le titre du magazine qui sort ce matin. Et le premier grand reproche des usagers, c'est le flou de la politique tarifaire.
Oui, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de mal à s'y retrouver, donc pour essayer de donner des armes aux consommateurs, aux voyageurs, on a fait une étude, on a étudié les tarifs de près de 3000 trains, et ce qu'on constate, c'est le grand écart entre les tarifs sur certaines lignes. On a constaté que les prix pouvaient varier de 1 à 11. Ça veut dire qu'on a des prix d'appel à 10 euros, mais le prix du billet peut monter jusqu'à 110-115 euros. Donc c'est des écarts qu'on voit entre Paris et Bordeaux, par exemple, entre Paris et Marseille. Donc effectivement, il y a des grands écarts tarifaires qui expliquent que les consommateurs sont un petit peu perdus.
Quels autres reproches, là on l'entend sur les tarifs, quels autres reproches formulent les usagers? On imagine les retards des guichets fermés.
Oui, ça fait partie aussi des reproches récurrents. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur les tarifs en eux-mêmes, et notamment quand on parle des grands départs en vacances, c'est vrai que ça fait partie des vagues de plaintes qu'on a de façon récurrente à 60 millions de consommateurs pour les départs en vacances d'été, en vacances de Noël, sur le prix des billets. Et notre étude permet de montrer que sur ces demandes, sur ces dates très demandées, il n'y a parfois aucune économie à espérer, parce que même à l'ouverture des réservations, on est déjà au tarif maximum.
Et il y a un moyen d'obtenir de meilleurs tarifs, ou c'est la chance, c'est le loto ?
Alors, sur les grands départs, notre étude montre qu'hélas, il n'y a rien à espérer. En revanche, dans la plupart des autres dates de voyage, on a essayé d'estimer les économies qu'on pouvait faire en réservant à l'avance, et on arrive à un chiffre de 20% d'économie si on réserve 2 mois à l'avance par rapport au prix qui sera pratiqué 15 jours à l'avance. Donc voilà, si au lieu de s'y prendre 15 jours à l'avance, c'est 2 mois, ça fait en moyenne 20% d'économie d'après notre estimation.
On a en tout cas bien compris à quel point ça pouvait être complexe que cette tarification SNCF. Benjamin Dourier, merci beaucoup, rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs, le magazine de l'Institut National de la Consommation.
C'est une réussite qui apparaît presque comme un miracle, celle de PSA, le constructeur automobile français qui enregistre un bénéfice en forte hausse en 2019.
C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Des bénéfices records dans l'automobile, un secteur en pleine révolution, c'est possible, et c'est donc l'histoire de PSA.
Oui, en 2013, souvenez-vous, PSA était un constructeur malade, il fermait l'usine d'Aulnay, il était au bord de la faillite, l'État et un groupe chinois, Dongfeng, volaient à son secours. Eh bien aujourd'hui, c'est un des constructeurs automobiles les plus rentables du monde, avec une marge digne des fabricants de voitures de luxe allemands et un bénéfice net de 3,2 milliards d'euros. PSA a même profité de sa santé retrouvée pour racheter Opel et Vauxhall, des marques allemandes et britanniques, ce qui lui donne une surface suffisante maintenant pour fusionner avec Fiat Chrysler et former l'un des premiers groupes automobiles du monde.
Comment un tel retournement de situation a-t-il été possible aussi vite ?
Alors, le patron de PSA, Carlos Tavares, qui a pris les commandes en 2014, a d'abord réduit les coûts. C'est une leçon pour ceux qui s'opposent à toute forme de restructuration. Ça explique la moitié du redressement. Avant, PSA devait vendre 2,6 millions de voitures pour simplement atteindre son point mort. Aujourd'hui, il suffit d'en vendre 1,8 million pour gagner de l'argent. Or, il en vend le double. L'autre explication du redressement, c'est la montée en gamme. Les clients sont prêts à payer plus pour une Peugeot ou une Citroën parce que les modèles sont plus attrayants, plus haut de gamme, génèrent plus de profits. Le grand défi qui attend Carlos Tavares va être d'appliquer ses recettes chez Fiat Chrysler. La fusion doit intervenir d'ici un an. Énorme chantier.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h. On va aller voir des stars pour terminer ce journal. Matt Damon, Ben Affleck, qui sont en tournage en Dordogne.
Alors si vous voulez les voir, il vous faudra quand même de très bonnes jumelles, parce que le tournage du nouveau film de Ridley Scott est particulièrement protégé. Mais imaginez, plus de 400 techniciens, des centaines de figurants qui sont mobilisés près de Sarlat. De quoi réjouir riverains et commerçants. Stéphane Place.
Bonjour.
Bonjour.
Donc c'est ici le tournage alors?
Oui.
On peut pas passer?
Ah non, désolé.
Pas question d'approcher le château fort du XIIe siècle de Bénac, au sommet de cette falaise du Périgord noir. C'est là que se déroule, dans le plus grand secret, le tournage. Déploiement technique, balai de voitures aux vitres fumées. Dominique observe un brin agacé.
C'est un vrai grand barnum. C'est assez contraignant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées. On peut pas aller dans Sarlat quand il tourne.
Beaucoup plus enthousiaste, Stéphanie, qui tient ici un hôtel-restaurant, et le serveur de l'établissement, Cyril.
C'est une aubaine pour le mois de février. Les nuitées du restaurant.
Matt Damon, quoi, un grand acteur américain. Je le vois passer, hein, on le voit passer en voiture et bon, ça fait plaisir.
Matt Damon, Ben Affleck, mais aussi des centaines de techniciens. Thierry Borde est le directeur adjoint du bureau d'accueil des tournages de la Dordogne.
400 à 500 techniciens. Mon travail, ça a été notamment de privilégier l'embauche locale, mais aussi de rayonner sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. On accueille beaucoup de figurants périgourdins, mais pas seulement. Par exemple, trouver des choristes qui chantaient des chansons du Moyen-Âge et qui acceptaient d'avoir une tonsure pour jouer un moine dans un film.
Un coup de projecteur exceptionnel, la Dordogne espère bien bénéficier de retombées touristiques importantes. Benac, Stéphane Place, Europe 1.
Et film produit par les studios Disney qui s'intitule The Last Duel, le dernier duel sorti prévu en début d'année prochaine.
Ils ont eu raison, les studios Disney. Quelle belle région, pour le coup, que la Dordogne. En France, ils ont de la chance, Matt Damon, Ben Affleck et les habitants de Dordogne, finalement, de croiser ces stars américaines. Simon Rubin, merci beaucoup.
Merci.
À 7h30, un nouveau journal tout à l'heure avec Hélène Zélani. Si vous avez aimé le flou de la tarification SNCF, vous allez adorer celui des compagnies aériennes. À quel jour, quel moment précisément acheter ces billets d'avion? Analyse de millions de recherches en ligne. La réponse, c'est sur Europe 1 ce matin à 7h30.
Sur Europe 1, l'innovation du jour avec Anissé Mbida.
Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Une innovation qui pourrait sceller une fois pour toutes des cas comme celui de Vincent Lambert. Écoutez bien ce matin. On pourra bientôt demander à un patient en état végétatif s'il souhaite lui-même arrêter les soins.
Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on ne peut pas communiquer avec le patient, c'est la famille qui décide, ce qui peut conduire à des conflits, comme avec l'affaire Vincent Lambert. Et bien, une équipe de chercheurs de l'Université Western Ontario au Canada teste actuellement un protocole qui permet d'interroger une personne en état végétatif en lisant en quelque sorte dans ses pensées. Alors, ça marche avec un casque d'analyse cérébrale. On commence par vérifier que la personne est toujours consciente en lui faisant écouter de la musique, en lui racontant des blagues pour provoquer des réactions dans son cerveau. Ensuite, on va l'interroger en lui disant, par exemple, si vous êtes d'accord, imaginez que vous jouez au tennis. Sinon, pensez à de l'eau qui coule. Et si c'est la zone motrice du cerveau qui s'allume, c'est qu'a priori, elle est d'accord. Alors évidemment, on va multiplier les questions pour être bien sûr que la personne est en capacité mentale de prendre des décisions. Mais ça fonctionne.
Ça paraît incroyable comme ça. Est-ce que c'est déjà utilisé pour valider un arrêt de soins?
Oui, une vingtaine de patients sous respirateur avec des lésions cérébrales ont déjà répondu. Alors ce n'est qu'un test, il faut encore affiner la technique, mais elle vient d'être détaillée dans une étude. Et leur objectif, c'est désormais d'arriver à un protocole tout simple pour obtenir un oui ou un non à la poursuite des traitements quand une personne est en soins intensifs. Mais ils le reconnaissent, dans tous les cas, ça sera toujours plus facile d'interpréter une réponse positive, je continue, qu'une réponse négative, je souhaite arrêter.
Merci beaucoup Anissa Mbida, cette innovation incroyable qu'on va retrouver évidemment sur le fil Twitter d'Europe 1, vous allez pouvoir partager ça. C'est absolument hallucinant comme innovation sur bien des cas et bien des débats qu'on a pu avoir ici même à Nice Mbida tous les matins juste après le journal de 7h.
Panzani Renault avec son slogan historique à suivre, le monde bouge avec Axel de Tarlé.
Et puis au-delà des polémiques sur la présence des supporters italiens en tribune, on va parler de la victoire de Lyon face à la Juve hier soir, 31e minute.
Le but de l'Olympique Lyonnais marqué par...
Un coup de maître, dit le journal L'Équipe ce matin en ajoutant un visa pour l'espoir, le match retour. C'est le 17 mars, mais on va parler du match d'hier soir avec Virginie Fulpin. À tout de suite.
Europe 1, il est 7h22, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Béliard.
18 cas de coronavirus en France ce matin et une enquête est en cours pour essayer de retracer le parcours de cet enseignant décédé hier à l'âge de 60 ans. 4 malades restent hospitalisés dans le pays. Pas d'épidémie, insiste le gouvernement, qui annonce en même temps de nouvelles mesures de prévention comme le déblocage d'un stock de 15 millions de masques. Sondage exclusif Orange Europe 1, les cartes rebattues à Strasbourg avec l'entrée en lice fracassante de Catherine Trottmann. À 69 ans, l'ancienne ministre, ancienne maire de Strasbourg, se positionne au centre du jeu des prochaines municipales.
La météo, la neige va arriver dans les régions de l'Est. Dans la journée, pour le moment, c'est de la pluie sur la façade ouest et cette perturbation va donc traverser le pays à l'arrière en Bretagne cet après-midi. Le soleil sera de retour. On attend 5 degrés à Épinal pour les maximales, 10 à Grenoble, 14 à Tarascon et Toulon.
Europe 1.
Virginie Fulpin est avec nous pour l'édito sport dans un instant. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Axel de Tarlé, le monde bouge. Axel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Des pâtes. Oui, mais des Panzani, la marque Panzani qui renoue avec son slogan historique.
Voilà, on appelle ça le rétro-marketing, c'est très à la mode. Donc dans sa nouvelle publicité, en effet, Panzani ressort son slogan qui date de 1975, avec comme fond musical cette chanson des Stranglers qui date de 1982. Voilà, donc le décor est planté, notre enfance. Et Panzani va même décliner son slogan dès le mois prochain avec ses sauces. Donc on va entendre des sauces.
D'accord.
Oui, mais les voilà. Alors justement,
c'est déjà moins efficace.
Oui, justement, le slogan ne doit pas être chanté, il doit être dit et prononcé. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus de chanter un slogan. Ça fait très démodé de chanter.
Oui, mais alors justement, est-ce que Panzani ne prend pas le risque d'inscrire sa marque finalement dans le passé?
Alors, c'est le risque, mais jouer sur les codes du passé, ça a quand même 3 avantages. 1, le côté Madeleine de Proust. Des pâtes, c'est Panzani. Bah, ça sonne comme une évidence et surtout pas le concurrent Barilla, vous voyez. Deuxième avantage, c'est l'authenticité. Les années 70, c'était avant la mondialisation, avant les OGM. Et donc, si vous voulez incarner le bio, le local, l'artisanal, bah, rien de tel que les codes du passé, du c'était mieux avant. C'est par exemple les confitures Bonne Maman. Attention, on parle juste là de marketing, de communication. Ça ne dit rien sur la réalité du produit à l'intérieur, qui lui est adapté au goût et aux exigences d'aujourd'hui. Enfin, troisième intérêt du rétro, bah ça vous permet de monter en gamme et donc de vendre plus cher. Et là, l'exemple typique, c'est le Kawai de notre enfance, avec la marque a été reprise, mais elle vend aujourd'hui bien plus cher. Pourquoi ? Parce que le rétro donne l'impression de rareté, d'exclusivité, d'appartenir à un petit club. On le voit avec l'automobile, vous savez, avec la nouvelle Fiat 500 ou la Mini. Voilà, donc pour conclure, une idée que je suggère à Europe 1, pourquoi ne pas ressortir notre vieux slogan « Europe 1, c'est naturel », mais on a bien compris, il doit être dit et prononcé et surtout pas chanté.
Je sens que ça vous frustre. Je sens que ça vous frustre. Et Europe 1, c'est naturel, parce que vous aimez chanter. Axel, ça c'est une réalité. Tiens, puisqu'on parle de publicité, à 8h35, nous serons avec Jean-Pierre Montanet qui a analysé les pubs pour la lingerie, justement. Et là, on n'est plus du tout dans le rétro. Grosse modernité, grosses évolutions, justement, pour vendre de la lingerie aujourd'hui. Ça fera suite, finalement, à ce que vous venez nous expliquer, mon cher Axel de Tarlet. 7h25.
L'édito sport, Virginie Fulpin est sur Europe 1.
Ils l'ont fait. L'Olympique Lyonnais a battu la Juventus de Turin 1-0 hier soir, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un exploit qui prouve qu'une équipe peut changer de visage si elle y met du cœur.
Ouais, Lyon s'est donc joué comme ça. La Ligue des Champions a ce pouvoir de transformer les équipes dans les matchs à élimination directe. Il y a celles qu'elle paralyse et celles qu'elle galvanise. On a bien compris que le Paris Saint-Germain faisait partie de la première catégorie. Et on a découvert hier, un petit peu médusé, que les Lyonnais avaient la trempe pour s'inviter dans la deuxième catégorie. L'équipe qu'on a vue face à la Juve hier soir n'a pas grand-chose à voir avec celle qui écume laborieusement les terrains de Ligue 1 depuis le début de la saison. Elle avait hier ce petit supplément d'âme qui vous transforme un crapaud en prince charmant. C'est ça le bonheur des soirées européennes, cette flamme qui se réveille au milieu des décombres, cette lumière qui jaillit pour vous faire déjouer tous les pronostics et dépasser vos limites. Hein. Qui aurait parié sur une victoire de l'OL face à un des favoris de la compétition ? C'est sûr, hein, ce matin, après la bataille, on va trouver beaucoup de gens qui nous diront que oui, eux, ils le savaient. Mais si on est honnête, non, hein, ce résultat est une surprise totale. Et c'est justement parce qu'on ne s'y attendait pas que ça rend l'exploit encore plus savoureux. On va même avoir du mal à critiquer les choix de Rudy Garcia. C'est dire si s'est passé quelque chose d'unique hier soir. Hein. Le milieu de terrain de l'OL a mangé les Italiens en première mi-temps.
Vous pouvez la redire, cette phrase.
Le milieu de terrain de l'OL a mangé les Italiens en première mi-temps.
Ça
va pas
arriver souvent.
Pincer,
non, mais cette phrase, vous n'allez pas la dire souvent.
Et en plus, comme les grandes soirées, ça se passe jamais totalement tranquillement. Les Lyonnais ont montré autre chose en deuxième période. Leur héroïsme, ça non plus, franchement, on ne les en croyait pas capables.
Cette victoire 1-0, il faut faire attention, ça n'est que 1-0, mais on va pas se priver de se réjouir. Cette victoire 1-0 donne de l'espoir avant le match retour.
Ouais, l'espoir inespéré. Les Lyonnais vont jusqu'à inventer des figures de style. Quand une équipe met autant de cœur à l'ouvrage, oui, tout devient possible. Et rien que cet espoir, c'est une bénédiction, hein, même s'il n'apporte aucune certitude. Cette équipe s'offre 3 semaines d'espoir. Et quand vous baignez dans un marécage de critiques depuis le début de la saison, ces 3 semaines, c'est une cure de béatitude. Et qu'importe la suite, en fait. Évidemment, la Juve ne sera pas la même au match retour. Elle va se méfier, maintenant. Et puis l'OL va appréhender ce retour différemment. Quand dans la tête, vous passez de « on n'a rien à perdre » à « tout est possible », c'est une révolution psychologique qui peut vous couper les jambes. Mais je vais éviter tout pronostic négatif. Hein, ça n'a pas grand intérêt. Et puis après tout, l'Ajax Amsterdam a éliminé la Juventus de Turin l'an dernier. Et le président Jean-Michel Aulas nous a prévenu, Lyon, c'est un petit Ajax.
Vous retournez votre veste, Virginie.
Ben voilà, mais non, je me moque un peu de moi-même, là, parce que je ne peux plus me moquer de Jean-Michel Aulas.
Ce matin, c'est difficile en tout cas. Et si Lyon était l'équipe française qui allait le plus loin en Ligue des Champions cette année aussi ? Posons la question. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport à retrouver sur Europe1.fr. À suivre la météo et le journal de 7h30, ce sera avec Hélène Zeleny.
Vous écoutez Mathieu Béliard, la matinale d'Europe 1.
Et ils sont là pour la demi-heure qui va démarrer à 7h50, Périscope, la culture, avec Jean-Philippe Ballas.
Et ce matin, c'est lui. That's the power of love. Huey Lewis and the News, messieurs, dames, avec un nouvel album américain comme il faut. Des petits pépins de santé aussi, vous dira tout Huey Lewis, 69 ans, et moi je l'aime beaucoup.
Avant le journal de 8h, Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou.
Je vous parlerai d'une épidémie, celle du coronavirus, qui provoque une autre poussée de fièvre, très inattendue celle-là, chez les anti-mondialisations.
Et justement, ça rebat peut-être les cartes, la mondialisation a-t-elle causé l'épidémie ou est-elle la solution ? On en parle avec Nicolas tout à l'heure et on en parle avec Philippe Luscan, vice-président de Sanofi, le géant français de l'industrie pharmaceutique qui va relocaliser une partie de sa production de principe actif. On en parle juste après le journal tout à l'heure. 7h29, Laurent Cabrol.
Alors, soyons précis, parce que c'est très compliqué. Ce qui se passe, nous avons une grosse zone de pluie qui est arrivée par l'Atlantique dans le courant de la nuit. Et il pleut maintenant pratiquement jusqu'à Paris et même au-delà. Nous avons et nous aurons des éclaircies dans l'après-midi sur la Bretagne, la Basse Normandie, la Vallée de la Loire, le Poitou-Charentes et la Vendée, parce que la perturbation sera passée. Dans l'après-midi, nous aurons encore de la pluie sur Paris, même si elle est beaucoup moins intense que le matin, où nous aurons aussi quelques petits flocons sur la capitale. Et si nous poursuivons notre petite traversée de la France, dans le sud-ouest, les pluies vont persister une bonne partie de la journée. Sur le Massif central, les pluies sont là, il neige en montagne, ça va durer. Vallée du Rhône, ça va durer aussi, comme la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Sur la région parisienne, je l'ai dit, sur des contrées comme le Nord, le Pas-de-Calais, les Ardennes, la Champagne, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le Dijonais, les chutes de neige se manifesteront à partir du début de l'après-midi, juste après le repas, et elles vont durer une bonne partie, enfin non, 3-4 heures, pas plus. Et ensuite, le temps redeviendra pluvieux et non pas sec. Mais nous aurons cessé avec la neige à partir de 3 ou 4 heures de l'après-midi dans toutes ces contrées. Températures maximales sont en baisse, bien sûr, entre 6 et 14 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol et bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal à 7h30.
Le fait d'appeler le 15 est sûrement une bonne stratégie quand vous avez quelques centaines de cas. Ça devient plus du tout une bonne stratégie quand on doit traiter des milliers de personnes.
Un afflux de malades craignant d'être contaminés, c'est ce que craignent les médecins généralistes. Ils se sentent abandonnés par les pouvoirs publics.
Le gouvernement, justement, veut se montrer à la hauteur de la gravité de la situation. Mais l'est-il vraiment ? Réponse avec Mickaël Darmon.
On l'a appris il y a quelques minutes. Un très grave incendie qui a éclaté cette nuit dans un immeuble de Strasbourg. Le bilan est lourd. 5 morts et 7 blessés.
Et puis nous vous dirons quel est le meilleur jour pour réserver son billet d'avion pour le payer moins cher, mais aussi pour éviter les perturbations.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le coronavirus ne cesse de progresser. Au moins 40 pays touchés sur tous les continents. Premier cas au Brésil, en Grèce, en Algérie, au Pakistan, en Norvège ou encore en Autriche.
En France, on déplore un nouveau décès. Un homme de 60 ans enseignant dans un collège de Crépy en Valois dans l'Oise. Il n'avait pas voyagé dans une zone à risque. L'enquête va donc tenter de déterminer comment il a été infecté. Vous connaissez la consigne. Au moindre doute, on appelle le 15. Mais les généralistes craignent de voir arriver en consultation tous ceux qui se croient infectés, avec à la clé de graves conséquences. Coup de gueule du docteur Bertrand Legrand, médecin à Tourcoing et secrétaire général du syndicat CSMF.
Le fait d'appeler le 15 est sûrement une bonne stratégie quand vous avez quelques centaines de cas. Ça devient plus du tout une bonne stratégie quand on doit traiter des milliers de personnes. Or, clairement, maintenant, on va rentrer dans cette phase où ce sera des milliers de cas suspects pour peut-être un seul ou deux cas de coronavirus.
Est-ce que vous craignez qu'il y ait des gens qui viennent vous voir directement plutôt que d'appeler le 15 ?
C'est tout le fond du problème, c'est que cette stratégie est partie du principe que les patients seraient responsables. Penser ça est une utopie. C'est totalement utopique de penser que les gens vont se rester confinés. Un médecin qui recevrait un cas suspect qui serait donc passé en cas probable, donc en isolement à l'hôpital, le cabinet est censé fermer, le médecin est censé rester chez lui pendant 14 jours, et on a un suivi de tous les patients qui sont en salle d'attente. C'est impossible. Une fois que vous aurez 1000 médecins qui seront à l'arrêt, comment on va soigner les gens ? On est déjà en situation tendue, on est déjà en épidémie de grippe, c'est pas possible.
Ça n'est pas possible, dit le docteur Bertrand Legrand au micro européen de Lionel Gougelot. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se rend à Naples pour un sommet franco-italien, réunion prévue de longue date, qui n'a pas été annulée, mais sera forcément marquée par le virus. L'Italie étant, vous le savez, le pays d'Europe le plus touché. Pendant ce temps-là, Édouard Philippe reçoit ce matin à Matignon les chefs de parti et les présidents de groupes parlementaires pour évoquer justement cette question du coronavirus.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Le gouvernement soigne sa communication et pourtant, on lui reproche déjà certaines incohérences.
Et oui, vous savez, le monde entier est sous le choc du coronavirus, hein, tout le monde a peur, tout le monde, non, sauf un pays décide qu'il peut résister au virus envahisseur et multiplie les messages contradictoires. Plusieurs milliers de supporters sont venus d'Italie, mais les voyages scolaires en Italie sont annulés. La France doit se préparer à une épidémie, disent les autorités, mais pas question de prendre des mesures de grande ampleur. Toute personne qui revient des zones contaminées doit rester chez elle, mais le réseau Sentinel qui alerte sur les épidémies ne donne pas d'alerte spéciale. Pourtant, un climat anxiogène s'installe parce qu'il faut s'attendre à une augmentation des personnes touchées par le virus.
Et ce que vous nous dites donc, Mickaël, c'est que cette gestion risque de devenir un problème politique.
Et c'est déjà le cas. L'opposition croit avoir trouvé la molécule anti-gouvernement. La frontière, Éric Ciotti demande un plan d'urgence. Marine Le Pen demande le retour des contrôles pour tenter de contenir cette panique. Édouard Philippe va réunir ce matin les présidents de groupe à l'Assemblée nationale pour montrer que tout est sous contrôle. Le gouvernement cherche son vaccin contre une épidémie politique.
Merci Mickaël Darmon. Et notez-le bien, 8h15, Sonia Mabrouk reçoit la porte-parole du gouvernement, justement, Sibeth Ndiaye.
Europe 1, il est 7h34.
Ce drame, ce matin à Strasbourg, un incendie qui a fait 5 morts et 7 blessés.
Le feu a pris dans un immeuble de 7 étages pour une raison encore inconnue. Selon les tout premiers éléments de l'enquête, l'incendie serait parti d'un tableau électrique dans les parties communes de cet immeuble. Deux personnes ont été arrêtées à proximité et sont interrogées pour des vérifications. Cette fois, c'était la bonne. Le procès du couple Fillon s'est ouvert hier. L'ex-premier ministre est poursuivi pour les soupçons d'emploi fictif de son épouse Pénélope. Son suppléant Marc Joulot est également poursuivi.
Vous avez suivi cette première journée d'audience très technique, Salomé Legrand, mais les premières piques ont commencé à fuser.
La très rébarbative étude de questions de droit pointue n'a pas empêché l'échange d'amabilité. D'un côté du prétoire, les avocats du couple Fillon accusent le parquet financier d'avoir précipité l'ouverture de l'instruction pour qu'une loi plus sévère s'applique. Un juge désigné un samedi du jamais vu, tonne-t-il. À quelques jours près, la réforme de la prescription empêchait de remonter au-delà de 12 ans. Réplique immédiate du parquet national financier, je cite, « On a été naïfs de croire que la victimisation de la défense allait cesser pour faire place au droit. » Le second procureur attaque en insistant sur la gravité du détournement de fonds publics, délit puni de la peine correctionnelle la plus lourde, 10 ans de prison. Il se permet un saut au Moyen-Âge pour rappeler que c'était alors passible de la peine de mort par pendaison. Le public frissonne d'excitation. Sur leur strapontin, les trois prévenus se redressent d'un bond.
Et puis c'est l'incertitude sur la tenue du procès de Redouane Faïd qui doit être jugé en appel devant les assises du Pas-de-Calais pour le braquage d'un fourgon blindé en 2011. Il est en grève de la faim, refuse d'être extrait de sa cellule. Ses avocats vont demander le renvoi du procès.
Malgré les craintes autour du coronavirus, vous prévoyez peut-être de voyager dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Sachez que pour payer vos billets d'avion moins chers, il y a des jours de la semaine, des jours et des heures à privilégier.
Oui, c'est ce que montre l'enquête Liligo et Air Indemnité qu'Europe 1 peut vous dévoiler ce matin. Plus d'1 million de recherches de vols ont été analysées en les croisant avec les retards et les annulations. Alors qu'est-ce que ça donne, Aurélien Fleureau ?
Ce n'est pas une science exacte, mais il existe de fortes tendances. Pour trouver les prix les plus bas, mieux vaut réserver un mardi ou un vendredi. Et cela dépend d'où vous partez et où vous allez, explique Guillaume Rostand, directeur marketing du moteur de recherche Liligo.com.
On a des tendances qui se dégagent parfois par zone géographique. Typiquement, l'Asie est plus intéressante à la réservation le vendredi. Pour des destinations plus proches européennes, c'est plutôt le mardi. Donc en fait, ça se ventile un petit peu. Pour résumer, les longs courriers sont plus intéressants à réserver le vendredi. Et les courts et moyens courriers, plus intéressants, le mardi et le mercredi.
Et l'idéal pour des vacances réussies, c'est d'éviter un retard, pire, une annulation. Et là aussi, il y a des jours à privilégier, selon Baptiste Lopresti, porte-parole d'Air Indemnité.
Le mercredi et le lundi sont le moins exposés aux perturbations. Pour les passagers qui volent sur ces jours-là, statistiquement, ils ont moins de chances de faire face à des retards ou des annulations de vol. A contrario, le mardi et le jeudi sont les jours qui, statistiquement, sont les plus perturbés.
Et puis, côté destination, sur le podium du meilleur rapport prix-ponctualité, au départ de Paris, on retrouve Athènes, Londres et Marrakech.
Marrakech où il fera d'ailleurs 29 degrés cet après-midi. Ça nous change de la France avec ses 10 départements du Nord-Est en alerte neige-verglas, du Pas-de-Calais à la Moselle en passant par la Marne.
Quand vous aurez froid, vous penserez à Hélène Zélani qui vous donnait la météo à Marrakech pour terminer ce journal de 7h30. Merci beaucoup Hélène. À 8h, un nouveau journal avec Sonia Mabrouk et le retour de notre envoyé spécial à Codogno dans la zone confinée au nord de l'Italie, en Lombardie bien sûr. Roman Ok. De retour justement avec ces inquiétudes autour du coronavirus. Quel contrôle réellement ? La réponse dans le journal de 8h.
Europe 1, il est 7h38.
Hi, this is Madonna. Are you ready?
Et quel beau cadeau ce matin à 7h38, Omblin.
Oui, vous faites quoi mercredi soir ?
Je vais voir Madonna.
Eh bien, on vous offre pour aller avec Mathieu Béliard et la personne de votre choix. Voir Madonna au Grand Rex à Paris. Un show intimiste, grandiose, à la fois 2h30 de spectacle.
On fait gagner 2 places, hein, une place avec moi.
Non,
c'est 2 places, vous y allez tranquillement.
Et en plus, vous croiserez Mathieu Béliard, si c'est pas merveilleux. Un spectacle digne du statut de la Queen of Pop. 40 musiciens, choristes, danseurs qui l'accompagnent sur scène, 140 personnes en coulisses. Elle va enchaîner ses plus grands succès, American Life, La Isla Bonita, Like a Prayer, Madonna au Grand Rex à Paris, mercredi soir. Vous vous inscrivez sans attendre par SMS en envoyant Madonna au 739 21 75 centimes hors coût du message de SMS pour jouer. Madonna au 739 21, tirage au sort demain avant 9h.
Vous êtes sur Europe 1, bon réveil à toutes et à tous. L'actualité avec les acteurs de l'actualité en direct et mon invité à présent, Philippe Luscan, vice-président exécutif du géant de l'industrie pharmaceutique, géant français Sanofi. Bonjour Philippe Luscan.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à vos auditrices et auditeurs.
En charge précisément, je le dis aussi, des affaires industrielles globales de Sanofi, c'est votre titre complet. Alors la problématique des médicaments fabriqués à l'étranger, la crainte de pénurie et votre annonce cette semaine de la relocalisation d'une partie de la production en France, en Europe, votre projet. On va en parler tout de suite. Mais d'abord, évidemment, à cause de la situation internationale du coronavirus, est-ce qu'il y a un risque de pénurie, de manquer d'un ou plusieurs médicaments dans les semaines qui viennent ?
Alors, il faut être vigilant, mais en ce qui concerne Sanofi, nous produisons nos médicaments beaucoup en Europe. Nous avons 40 usines en Europe, nous avons 18 usines en France, et donc nous n'avons aucun risque. La situation est parfaitement maîtrisée, puisque nous produisons en Europe l'essentiel de nos médicaments. Donc
mais c'est une bonne nouvelle. On a eu plusieurs séquences de tensions sur des médicaments par le passé, ces dernières années. On va le rappeler, c'est à l'origine d'ailleurs de votre projet, 60% de la production des principes actifs se fait en Asie.
Voilà. Alors il y a la situation générale et la situation exceptionnelle de Sanofi. La situation générale, c'est que dans le monde, 60% des médicaments viennent, des principes actifs viennent d'Asie, de Chine ou d'Inde.
Le principe actif, il faut bien comprendre, c'est une molécule et c'est la partie utile, voilà, donc pratique, c'est la partie, du médicament, c'est, la matière première
c'est
du médicament.
La matière première du médicament, qui est la partie active du médicament qu'on trouve dans les sirops, dans les comprimés, dans les seringues. Et en ce qui concerne Sanofi, nous avons une base de production en Europe qui est exceptionnelle, comme je l'ai rappelé, et nous avons annoncé cette semaine que nous allions augmenter notre capacité de production en Europe, de production de principes actifs, en créant une société à l'extérieur de Sanofi qui va augmenter autour de 6 usines qui produisent déjà pour Sanofi, mais pour d'autres laboratoires, pour plus de 600 clients à travers le monde, dans près de 80 pays. Nous allons augmenter notre production en Europe de manière à offrir à l'Europe, aux patients européens, une offre de santé qui permet de sécuriser l'indépendance et la sécurité sanitaire des Européens.
Mardi, à la même heure, j'étais avec le cabinet Carnet et leur réflexion sur la mondialisation remise en question sur ces industries qui pourraient se re-régionaliser vers l'Europe. Est-ce qu'on est trop dépendant aujourd'hui de la Chine, de l'Asie ? Vous êtes dans cette problématique-là ?
Alors, de manière générale, oui.
Oui, on est trop dépendant de l'Asie.
Pour Sanofi, non. Nous avons fait un choix historique, dont je suis le porteur et le porte-parole aujourd'hui, d'avoir une production européenne. Nous croyons à la proximité des acteurs de santé européens. Et grâce à Sanofi, premier producteur de médicaments en Europe, nous pouvons offrir aux patients européens une offre de santé avec la qualité qui est reconnue pour Sanofi.
Parce que j'oublie le coronavirus un instant, si vous le voulez bien, mais on a beaucoup parlé ces dernières années de tels médicaments qui manquent. Dès qu'il y a une rupture dans la chaîne industrielle, dès qu'il y a un souci avec une usine, ça peut être une catastrophe climatique, ça peut être une situation géopolitique, ça peut être tout simplement un problème dans la fabrication du médicament. En bout de chaîne, on a des antibiotiques qu'on ne trouve plus chez nous, on a des médicaments anticancéreux qu'on ne trouve plus chez nous. Cette chronique, on l'a faite souvent. Aujourd'hui, notre système de santé dépend des usines asiatiques.
C'est exact, pour deux tiers d'entre elles, et c'est pour ça que l'annonce de Sanofi est exceptionnelle, parce que étant un acteur européen et offrant au marché européen une opportunité d'encore accroître la capacité de production en Europe, vous imaginez bien qu'on est au cœur de l'actualité, et on est au cœur d'une stratégie qui est historique pour Sanofi, qui veut être un partenaire de santé européen. On l'est aussi dans d'autres zones du monde. On produit essentiellement en Europe nos médicaments pour l'Europe.
Alors dans le détail, c'est une société, vous l'avez dit déjà, j'aurais le souligné, qui ne sera pas Sanofi.
Alors, c'est une autre société. En fait, on va créer d'ici 2 ans une société européenne autour de 6 usines qui existent aujourd'hui, qui produisent pour beaucoup de laboratoires en Europe et pour le monde. Et il nous faut le temps de la créer. On va la mettre en bourse d'ici 2 ans, en 2022, avec un actionnariat de Sanofi, des partenaires institutionnels autour de nous, et on appelle autour de nous d'autres partenaires pour venir bâtir et constituer cette société, et qui permettra, je dirais, d'augmenter l'offre de production de principes actifs en Europe pour les patients de l'Europe.
Vous voulez devenir aussi, pour bien comprendre, et j'essaie de traduire, vous voulez aussi devenir fournisseur de vos concurrents.
Exact, on l'est déjà aujourd'hui, puisqu'on est, cette société sera la deuxième société de production de principes actifs au monde, avec un siège en France. Nous avons près de 600 clients, autres que Sanofi. Le chiffre d'affaires sera aux alentours d'1 milliard d'euros, et bien sûr, nous voulons croître. Cette opportunité, on a un marché en croissance entre 5 et 10% par an, donc il y a là, devant nous, une opportunité exceptionnelle, non seulement de souveraineté pour l'Europe, mais de croissance économique, et notamment pour nos usines, qui verront leur volume de production augmenter en Europe. France, Italie, Allemagne, Angleterre et Hongrie, puisque ça sera la base de cette société.
Parce qu'on a tous joui, profité, évidemment, de ces avantages de la mondialisation, de la libre circulation des biens, biens et des personnes. Mais la réalité, c'est qu'il y a des secteurs stratégiques, et la santé en est un évidemment, où on ne peut pas se permettre de dépendre du régime politique chinois, par exemple.
Alors, je pense que, vous savez, c'est lié à la politique des prix. C'est-à-dire que plus vous avez une pression sur les prix, plus les industriels essaient de baisser, leur prix de revient. Et c'est là que le phénomène s'est un peu enclenché. En ce qui concerne Sanofi, nous avons toujours décidé, étant un acteur français
d'avoir 40%
de notre production. Et on a 40% de production en France, avec 18 usines à travers le territoire, qui sont bien connues en France, 40 en Europe. Et nous avons toujours fait de cette politique européenne de proximité. Nous sommes un acteur de santé publique et nous croyons à la proximité en France et en Europe.
Alors justement, ce nouvel acteur producteur de principes actifs, les API dit-on dans le jargon technique, vous avez parlé de 6 sites de fabrication que vous pourriez utiliser déjà. Concrètement, est-ce qu'il y aura une création d'emplois derrière cette annonce?
Alors, à partir du moment où il y a de la croissance, on vise à doubler la croissance qu'on a déjà aujourd'hui, on voit bien le phénomène de retour vers l'Europe de la demande des différents laboratoires. Donc nous, on est là. Et bien sûr, à partir du moment où vous avez plus de croissance, vous avez plus d'opportunités de production. Donc bien sûr, c'est un projet de croissance pour nous. Donc il est extrêmement positif.
Vous avez des projections un petit peu sur le nombre d'emplois que ça pourrait créer?
Alors, c'est trop tôt aujourd'hui pour le dire. Mais par contre, on va continuer à investir pour augmenter nos capacités de production, ça c'est sûr.
Alors, on ne veut plus dépendre de pays étrangers. Je voudrais pas faire une fixette sur l'Asie, mais c'est 60% des principes actifs sont aujourd'hui fabriqués en Chine et en Inde. Il faut bien le comprendre, ce sont deux pays producteurs. Il y a une raison pour cela, vous l'avez dit, ça coûtait moins cher de produire là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre annonce, le prix des médicaments va être renchéri en France?
Alors, nous on a travaillé, si vous voulez, sur deux phénomènes, parce qu'on sent que les tendances sont favorables. Premièrement, on voit que les prix d'ailleurs venant d'Asie, ils sont en train de monter. Parce que fort des normes environnementales, et c'est bien normal, fort des normes de qualité, il y a une attente de qualité importante pour les patients, les prix des produits asiatiques montent. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait en Europe pendant ce temps-là? On a travaillé sur notre compétitivité industrielle. Nous sommes un des acteurs industriels majeurs de France, toutes industries confondues. Donc nous avons énormément travaillé sur notre performance opérationnelle. Donc la somme des deux permet de réduire l'écart de compétitivité entre l'Europe et l'Asie. C'est pour ça qu'on a toujours cru à l'Europe.
Et le prix de la main-d'œuvre chinoise s'est renchéri, lui, de son côté aussi.
Oui, mais c'est une industrie de savoir-faire,
les
c'est une industrie d'expertise, c'est une industrie de qualité. Nous offrons une qualité premium en tant que Sanofi. Et je crois que c'est un sujet important pour les patients. La qualité est majeure, la sécurité est majeure. C'était notre credo.
Vous avez déjà un nom pour ce nouvel ensemble?
C'est un peu tôt.
C'est un peu tôt. Mathieu, j'aime bien les noms, moi, j'aime bien nommer les choses.
Bon, on se donne 2 ans pour le faire. Et c'est un projet d'entreprise, vous l'imaginez bien. Donc, on est en train de discuter avec nos personnels. Je pense que c'est un point important. Et bien sûr qu'avec eux, on va essayer de bâtir cette société.
De patients qui ont connu des pénuries de médicaments, qui sont à l'écoute et qui se réjouissent de voir arriver une production européenne, pour le moins française en tout cas. 40% de votre production en France, disiez-vous. Combien en Asie, combien en Chine
on n'achète que 5%
d'accord.
En Chine.
Dites ce matin, il n'y a aucune menace de pénurie sur un produit Sanofi dans les semaines qui viennent.
Aucun.
Non, mais c'est important.
C'est notre mission, c'est notre passion. Je suis dans le groupe Sanofi depuis 30 ans. C'est notre métier et on est heureux aujourd'hui d'offrir à l'Europe, aux Français, un acteur de proximité. Vous pouvez compter sur nous.
Non, mais c'est important de le dire parce qu'on peut peut-être manquer de smartphones dans l'immédiat, ça paraît un peu moins grave que certains médicaments anticancéreux ou anti-voilà.
De notre Doliprane, etc. Il n'y a aucun problème. J'ai 2 usines de production en France. Et nous serons là. Merci de votre accueil.
Merci
et bonne journée à toutes et à tous.
D'être venu présenter ce projet dans ce contexte et ce débat finalement autour de nos échanges commerciaux internationaux. On va parler de la mondialisation avec Nicolas Bétou dans un instant, dans l'opinion de Nicolas Bétou. J'y tiens parce que la mondialisation est peut-être en cause, elle a peut-être accéléré une propagation du virus. Mais la mondialisation, c'est aussi la solution, vous allez le comprendre dans un instant. Merci Philippe Luscan, vice-président exécutif en charge des affaires industrielles globales chez Sanofi, le géant français de l'industrie pharmaceutique. 7h48.
Il chantait The Power of Love sur la bande originale du film Retour vers le futur. Huey Lewis sort un album et il sera dans Périscope avec Jean-Philippe Ballas. Europe 1, il est 7h49, l'essentiel de l'actualité. Mathieu Béliard.
Terrible incendie dans un immeuble de Strasbourg. Le bilan, 5 morts et 7 blessés. Pas d'explication pour l'instant. Mystère autour du premier Français décédé du coronavirus. Un homme de 60 ans enseignant dans un collège de l'Oise. Une enquête est ouverte pour comprendre comment il a été contaminé. Les municipales, sondage exclusif BVA Orange Europe 1. Pour la ville de Strasbourg, au premier tour, le candidat En Marche recueillerait 27%, l'écologiste 25% et le PS 17%. La socialiste Catherine Trottmann pourrait ainsi jouer les arbitres au second tour.
La météo, une nouvelle perturbation arrive par la façade d'Atlantique, un temps couvert et pluvieux à l'ouest qui va se décaler vers les régions de l'est, de la neige dans la journée en plaine des Hauts-de-France aux Alpes. Il fera cet après-midi 7 degrés à Colmar, 11 à Valence et Limonest dans le Rhône, 15 degrés du côté de Montluçon.
Europe 1.
Ils sont là en studio avec nous. Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas dans un instant. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Et Jean-Philippe Ballas pour la culture. Périscope, la culture à 360 degrés tous les matins. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
De la musique ce matin, direction la baie de San Francisco. Avec un grand retour, celui de Huey Lewis and the News.
Oui, et là, je sors la décapotable, carrément les amis. Je vous emmène tous avec Huey Lewis et un nouvel album, un peu guide du routard en Amérique, vous voyez, avec tous les styles, toutes les époques. Huey Lewis, 69 ans, souriant, même s'il ne peut plus donner de concert aujourd'hui, il va vous dire pourquoi. Puis bien sûr, on se mettra un peu de retour vers le futur, hein, pour le plaisir. Vous pouvez monter le son dans la DeLorean, c'est parti.
Bonjour Huey Lewis.
Bonjour.
On a un peu l'impression d'une bande de copains, de vieux amis qui joueraient ensemble.
Well, that's what it is.
C'est exactement ça. Vous savez, notre premier album est sorti il y a 40 ans. Et pour certains d'entre nous, on se connaît depuis 50, 53 ans. C'est fou.
53 ans, something like that.
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de nostalgie aussi dans tout ça?
Maybe.
Peut-être.
Everywhere I go, there's a pretty girl there. I see a pretty girl.
C'est vrai que nous avons des goûts très éclectiques dans le groupe, mais tant qu'une chanson est sincère, c'est le plus important. Vous savez, on ne sait pas d'où vient une chanson, c'est un cadeau. Et c'est elle qui vous dit comment elle doit être jouée. Parfois, c'est une chanson country, parfois, c'est de la soul music. La clé, c'est de toujours suivre l'idée.
There for you, guarantee I am there for you. I will comfort you if you want me to. Anywhere you go, baby, you should know I am there for you.
Huey Lewis, on adorerait entendre cette musique en concert, mais je crois que vous avez un problème sérieux à l'oreille, c'est un problème d'audition, je crois, qui vous empêche de jouer en live, c'est vrai?
Oui, c'est vrai. J'ai perdu mon audition il y a maintenant 2 ans et je n'entends plus la musique suffisamment bien pour pouvoir chanter. Alors, ma voix est impeccable. Ce sont les oreilles qui ne suivent pas. Bon, alors, j'ai toujours un petit peu d'espoir. C'est assez fluctuant. Alors, disons que je croise les doigts.
Bon, puis alors forcément, pour tous les gens qui nous écoutent ce matin, vous êtes aussi la chanson du film Retour vers le futur en 1985. C'est vraiment le titre qui a changé toute votre carrière.
À l'époque, ça nous a surtout permis de changer de voiture. Non, plus sérieusement, c'est notre premier tube mondial, oui. Power of Love et le film nous ont permis de jouer partout, en Asie, en Australie, en Europe. Alors oui, c'est une chanson très importante pour nous.
Et alors, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui découvre votre musique ce matin et qui va écouter votre disque ?
Oh,
je dirais, tu sais, c'était l'époque où la musique était jouée par des humains, sans machine. C'est ça, garantie sans machine.
Merci beaucoup, Huey Lewis.
Thank you, merci bien.
Voilà, garantie sans machine à l'ancienne. Weather, c'est le titre de ce nouvel album de Huey Lewis on the News. Je l'écoute beaucoup en voiture, même si j'ai pas de DeLorean. Et on croise les doigts en espérant les revoir un jour sur scène. Jean-Philippe Ballas pour la culture le matin. Toutes les cultures, c'est Périscope. La culture à 362.
7h55, l'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
La progression rapide de l'épidémie de coronavirus depuis la Chine jusqu'en Amérique latine. Nicolas, cette progression a ravivé les accusations qui pèse sur la mondialisation.
Comme vous le savez, Mathieu, les deux piliers de la mondialisation, c'est la libre circulation des personnes et puis celle des biens, autrement dit tout ce qui favorise et accélère les échanges. Bon, ben, la libre circulation des personnes, elle est bien sûr à l'origine de l'expansion rapide de l'épidémie partout dans le monde.
D'où les mesures d'isolement et les restrictions de circulation.
Oui, ce qui fait de cette circulation des personnes à la fois la cause et la victime de cette épidémie. Le tourisme, les déplacements professionnels, l'aérien, l'industrie des loisirs se sont développés à une vitesse vertigineuse depuis 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, ils le payent cash. Confinement, contrôle aux frontières, effondrement du trafic aérien, les sanctions économiques sont brutales.
Et pour ce qui concerne la circulation des biens ?
Eh bien, cet autre pilier de la mondialisation est lui aussi fragilisé. Il y a 15 ans, la Chine représentait 1% du commerce mondial. Aujourd'hui, c'est 35%. Le monde entier a délocalisé une partie de sa production vers l'Asie, où on a fait fabriquer des produits finis, où on a multiplié les sous-traitants. Et les sous-traitants de sous-traitants, c'est une chaîne d'une incroyable complexité qui s'est mise en place, qui est en partie bloquée par la crise sanitaire et qui porte donc un coup à l'économie du reste du monde.
D'où les critiques sur la mondialisation qui nous fragilise en nous rendant finalement dépendants de la Chine.
Oui, oui, mais je crois quand même qu'il faut faire le tri dans tout ça. Que la fabrication de médicaments soit dépendante à 60-80% de la Chine pour certains principes actifs, on l'a entendu il y a un instant, eh bien c'est effectivement un risque sanitaire et stratégique. Que cette industrie rejoigne donc les secteurs sensibles comme l'armement, les télécoms, qu'on rapatrie en Europe une partie de cette production, c'est sûrement souhaitable. Mais pour le reste, non. D'ailleurs, en Chine, beaucoup d'usines redémarrent déjà.
Ah donc, pas de reflux général de la mondialisation après cette crise ?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'on peut bien sûr accuser la mondialisation d'avoir permis une extension ultra rapide de la maladie. Mais que je sache, la grippe espagnole, il y a 100 ans, n'était pas un produit de la globalisation. C'est pourtant la pire épidémie connue à ce jour. 250 000 morts en France, 50 à 100 millions dans le monde entier. Et je ne vous parle pas de la grande peste du 14e siècle, 25 millions de morts en Europe, un tiers de la population rayée de la carte en France. Bon, la réalité, c'est qu'avec la globalisation, la quasi-immédiateté de l'épidémie s'accompagne d'une quasi-immédiateté de la réaction. Vigilance, quarantaine, soins, tout est instantané et tout se passe à l'échelle mondiale. Savez-vous que la dernière épidémie de peste, recensée par l'OMS, elle date d'il y a 2 ans seulement. Elle a fait 127 morts à Madagascar, mais elle a été bloquée. Voilà, les pandémies ont toujours existé, simplement aujourd'hui, si elles peuvent se répandre plus vite, on peut aussi mieux les combattre.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito tous les matins, juste avant le journal de 8h. Il est 7h57 à suivre. Sonia Mabrouk pour le journal, bien sûr. Sonia qui reçoit aujourd'hui Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, la lutte contre le coronavirus, sous un biais politique ce matin aussi. À tout de suite. 7h59 sur Europe 1, la météo, Laurent Cabrol.
On nous l'a fait à l'envers, c'est-à-dire que la pluie d'habitude arrive par l'est, là elle vient par l'ouest. La neige arrive le matin, elle arrivera l'après-midi, bref, il va falloir tout mettre dans l'ordre. De sorte que la pluie qui est actuellement présente sur tout l'ouest de la France est en train de dégager quand même la Bretagne et la Basse-Normandie, qui vont retrouver quelques éclaircies. Partout ailleurs, il pleuvra encore tout ce matin, il pleut sur Paris, il continuera de pleuvoir sur Paris avec même quelques flocons de neige. Et puis ensuite, dès que la pluie arrivera dans les régions comme le Nord, la Picardie, le Pas-de-Calais, la Champagne, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le Dijonais, les Alpes du Nord. Quand elle arrivera là, cette pluie se transformera en neige. Ce sera cet après-midi. Sur les régions du Sud, nous conserverons un temps humide. Les températures sont en baisse. C'est l'hiver, mes amis, entre 6 et 13 degrés.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol. Et bonjour, Sonia Mabrouk.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
8h, 8h30, on est ensemble pour une demi-heure d'infos.
Europe 1, il est 8h.
Vous imaginez ? Je voyage à l'autre bout de la planète. Peut-être que je propage le virus. Ils doivent contrôler ça dans les aéroports.
Pas de contrôle ni de consigne au départ de Codogno, foyer italien du coronavirus. Les voyageurs sont stupéfaits. Reportage édifiant dès le début de ce journal.
L'inquiétude des habitants de Vaumoise. C'est dans l'Oise, village où vivait l'homme décédé mardi soir des suites de ce coronavirus. Il n'avait pas voyagé dans l'une des zones à risque.
La chloroquine, ce médicament contre le paludisme, est-il réellement efficace contre le coronavirus ? Virus. Des Français se ruent dans les pharmacies pour s'en procurer. Attention, la chloroquine n'est pas dénuée d'effets secondaires.
Il faut y faire très attention parce qu'il donne beaucoup d'effets secondaires. Donc ce n'est pas du tout un médicament anodin. Et il ne faut pas ce médicament le laisser se diffuser comme ça sans contrôle médical.
À Strasbourg, l'incendie d'un immeuble a fait cette nuit 5 morts, 7 blessés. Le feu serait parti d'un tableau électrique.
2 personnes ont été arrêtées et sont actuellement interrogées pour des vérifications. Nous serons à Strasbourg dans quelques instants.
Très lourde condamnation de 7LM, filiale de BNP Paribas, condamnée pour avoir dissimuler les risques de ses prêts en francs suisses.
L'exploit hier soir des Lyonnais face à la Juventus Turin. 1-0 en huitième de finale de Ligue des Champions. Les supporters de l'OL en liesse.
Quelle victoire! Plus beau match de la saison, ça c'est sûr.
Un match où 3000 supporters turinois étaient présents en tribune et ça pose question à l'heure où l'Italie fait face à l'épidémie de coronavirus.
Mais où est
toujours.
Donc passé le principe de précaution? Question qui sera posée à la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, après ce journal.
8h02 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Se dirige-t-on en France vers une propagation du coronavirus tel qu'on le constate en Italie après l'annonce hier du premier mort de nationalité française, sexagénaire dont on ignore toujours comment il a été contaminé? Eh bien, le ministre de la Santé se veut malgré tout rassurant. Pas d'épidémie dans le pays, répète-t-il.
Les autorités n'envisagent pas de fermeture de frontières. C'est le principe de l'espace Schengen. Dans ce contexte, nous avons voulu vérifier comment se passe ces jours-ci le retour des personnes depuis une zone contaminée vers la France. Notre reporter Romane Hoquet est rentré hier de Codogno.
Effectivement, épicentre italien du virus, près de Milan, elle a fait le voyage en avion. Son reportage est édifiant, pratiquement aucune information, aucun contrôle.
16h, arrivée à l'aéroport de Milan. Dans le hall, je cherche, mais aucun panneau, aucune affiche sur le coronavirus.
Bonjour. Mettez-moi
le téléphone. Okay.
Donc là, j'ai passé les contrôles de sécurité et même avec mon masque, on ne m'a pas posé de questions. En salle d'embarquement, je patiente à côté de Tullio. Il part pour le Brésil.
Vous imaginez? Je voyage à l'autre bout de la planète. Peut-être que je propage le virus. Ils doivent contrôler ça dans les aéroports.
On a votre équipage, je vous souhaite
la bienvenue à bord de cet Airbus A319 Air France. Dans l'avion, aucune consigne. D'ailleurs, le personnel ne porte pas de masque. 19h30, atterrissage à Paris. Dans les couloirs, des brochures sur la Chine, rien sur l'Italie et personne pour vérifier notre température.
Il n'y a rien, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien à l'arrivée et c'est même incompréhensible.
Je vais quand même aller vérifier au centre médical. Bonsoir, j'arrive de la ville de Codogno en Italie. Je voulais savoir si j'avais des précautions particulières à prendre ou...
On n'en sait rien, ça change tout le temps, me répond l'infirmière. La quarantaine, c'est vous qui voyez.
Le virus qui s'étend désormais sur 3 continents. Premier cas en Amérique latine, au Brésil. Au total, près de 3000 contaminations hors Chine dans une quarantaine de pays.
Est-ce le remède contre le coronavirus? La chloroquine, cette molécule utilisée contre certains maladies auto-immunes, suscite en tous les cas un espoir mesuré.
Hier matin, l'infectiologue Didier Raoult, ici même sur Europe 1, nous annonçait que la chloroquine pourrait peut-être vaincre le coronavirus.
Oui, alors à ce stade, les tests sont encourageants, mais attention, vraiment, ne courez pas en acheter en pharmacie. Sans avis médical, les effets secondaires peuvent être dangereux. Victor Dolande.
L'essai clinique a été mené dans plus de 10 hôpitaux chinois, à Wuhan notamment, mais aussi Pékin et Shanghai. Selon les résultats, la chloroquine a amélioré l'état des poumons des patients contaminés et raccourci la durée de la maladie. Des tests encourageants pour le ministère de la Santé qui va faire rapidement des analyses complémentaires. Selon nos informations, de très nombreux patients se ruent déjà dans les pharmacies pour acheter de la chloroquine. Inutile et surtout dangereux pour Gilbert Deray, néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Il faut y faire très attention parce qu'il donne beaucoup d'effets secondaires et en particulier, il donne des atteintes de la rétine, avec des pertes de la vision qui peuvent être irréversibles. Il donne des troubles du rythme qui peuvent conduire à l'arrêt cardiaque. Donc, ce n'est pas du tout un médicament anodin. Et il ne faut pas ce médicament le laisser se diffuser comme ça, sans contrôle médical.
À ce stade, la seule chose à faire pour se protéger à titre individuel, c'est se laver les mains plusieurs fois par jour. Et si vous présentez des symptômes, surtout ne vous rendez pas aux urgences, mais appelez le 15.
Bonjour Odile Launay.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, professeur Launay, responsable du centre de vaccinologie à l'hôpital Cochin. Alors depuis plusieurs jours, nous parlons donc de ce possible remède, cette molécule, la chloroquine. Il faut que les tests se confirment bien sûr, mais c'est un véritable espoir ou non?
Disons que pour l'instant, les résultats sont quand même relativement limités. C'est une molécule qui est utilisée dans 2 indications, qui a été utilisée pour le paludisme parce que maintenant le parasite est résistant, et puis qui est utilisée dans certaines maladies inflammatoire parce que cette molécule a une activité anti-inflammatoire. Alors, dans le cadre des coronavirus, on a des données in vitro, c'est-à-dire quand on cultive le virus donc en dehors de l'organisme humain sur des cultures cellulaires. Et ce qui a été montré, c'est qu'avec ce médicament-là, mais également avec d'autres antiviraux, on a une réduction de la multiplication du virus. Et puis la deuxième information qu'on a, c'est que les Chinois, donc nos collègues chinois, ont publié un court article, c'est extrêmement court, où ils disent qu'ils ont traité des patients et que les patients traités semblent aller mieux. Mais on n'a vraiment aucun détail. On ne sait pas si ça a été comparé avec des patients qui n'auraient pas reçu ce médicament. Donc aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement préliminaire de dire que ce médicament va être le médicament miracle.
Prudence donc, un premier mort français hier, un enseignant de 60 ans dans l'Oise. Il n'avait pas voyagé professeur dans l'une, ou en tout cas pas voyagé récemment dans l'une des zones à risque. Il y a de quoi être inquiet ?
Ça veut simplement dire que le virus très probablement circule en France plus que ce qu'on pense, puisque nous, ce qu'on fait, c'est qu'on screen, on prélève les gens qui ont des manifestations cliniques, de la fièvre, des signes respiratoires et qui ont été en contact avec des gens qui reviennent d'une région ou d'un pays où le virus circule. Là, en l'occurrence, il semble que ce patient-là et le deuxième patient qui est actuellement en réanimation n'ont pas voyagé, n'ont pas été en contact, ou en tous les cas, ça n'a pas pu être déterminé. Mm-hmm. Et donc, l'hypothèse, c'est qu'ils étaient en contact avec une personne infectée, mais qui n'avait pas de symptomatologie clinique, et que probablement le virus circule en France.
Le virus qui circule plus que ce que l'on pense. Merci, professeur Launay, d'être intervenu en direct dans le journal de 8 heures.
Le coronavirus, toujours, qui provoque une onde de choc économique. Plusieurs grandes sociétés sont secouées. On en a beaucoup parlé ici, bien sûr. Air France se lance dans la chasse aux coûts pour réduire l'impact du virus.
Bonjour, Axel de Tarlé.
Bonjour.
Air France se prépare à une chute drastique du nombre de ses passagers.
Oui, ça commence. Les réservations vers l'Asie ont chuté de 68%. Alors, hors Chine, puisque vous savez que vers la Chine, il n'y a plus de vols. Et la crainte, maintenant, que le virus se propage en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, eh bien c'est une chute du trafic partout dans le monde. Ça veut dire plus de recettes et donc il faut se mettre en mode survie. Alors effectivement, le journal Les Échos a intercepté un courrier interne adressé au manager d'Air France. Il leur a demandé de suspendre toutes les dépenses non critiques, donc plus de réception. On arrête le recours à des consultants extérieurs. Suspension des campagnes de promotion, gel des embauches. Les salariés d'Air France sont invités à prendre leurs vacances avec, en Allemagne, la Lufthansa incite même ses salariés à prendre des congés sans solde. On le voit et on prend la mesure de la crainte liée à cette épidémie. C'est toute une industrie qui se prépare au pire, au mode zéro touriste.
Merci Axel de Tarlé.
À Strasbourg, un incendie cette nuit dans un immeuble au centre-ville a provoqué la mort de 5 personnes et en a blessé 7 autres.
Jean-Gabriel Bourgeois, vous êtes sur place pour Europe 1 ce matin. Le bilan est très lourd.
Oui, et c'est difficile ce matin d'imaginer le drame qui s'est déroulé cette nuit dans cet immeuble de 7 étages complètement vide ce matin. Pas de marque de cet incendie, la façade est à peine calcinée. Selon les premiers témoignages, tout s'est passé en pleine nuit. Vers 1h15, les pompiers sont appelés et c'est à ce moment que dans l'appartement de Pablo et Marie, les machines électriques s'affolent. C'est le bruit qui réveille le jeune couple qui vit au deuxième étage.
Le bruit, ça faisait des tac 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 comme ça de compteurs qui...
C'est le compteur électrique.
Moi j'ai cru que c'était ma machine à café qui déconnait. Et du coup, je me suis levée, je me suis dit, c'est quand même bizarre et tout ça. Et puis après, on commence à entendre des bruits dans l'escalier. Et puis d'un coup, on entend des gens qui descendent vite la cage d'escalier comme ça.
Puis moi, j'ai tenté de sortir de notre appart, on est au deuxième étage. Et quand j'ai ouvert la porte, il y a une bourrasque de fumée immense, donc impossible de sortir.
C'est par la fenêtre qu'ils réussissent à sortir avant d'être provisoirement logés dans un hôtel juste à côté. Ils font partie des 23 personnes indemnes dans ce drame qui a fait 5 morts. 7 autres personnes sont blessées. Les sinistrés ont été accueillis dans un gymnase de la ville. Selon les tout premiers éléments de l'enquête, le feu serait parti d'un tableau électrique dans les parties communes de l'immeuble. 2 personnes ont été interpellées à proximité et sont interrogées pour des vérifications.
Jean-Gabriel Bourgeois, envoyé spécial d'Europe 1 à Strasbourg.
Une décision qui fera date. La filiale de crédit de la banque BNP Paribas, qu'on connaît sous le nom de CTLM, a été condamnée hier à une lourde amende dans l'affaire des prêts toxiques Helvet Immo.
La banque est coupable de pratiques commerciales trompeuses pour ne pas avoir alerté ses clients sur les risques de ses prêts libellés en France suisse. Des milliers de petits épargnants s'étaient retrouvés surendettés. Leur avocat, Maître Charles Constantin Vallée, au micro Europe 1 de Salomé Legrand.
Le tribunal a jugé que BNP avait trompé l'ensemble des consommateurs sur tous les aspects du contrat. Cette décision qui est à la hauteur de l'histoire du droit de la consommation. Elle marquera l'histoire du droit de la consommation et elle va faire jurisprudence pour la suite s'agissant du comportement des professionnels. Ils vont comprendre que désormais, vis-à-vis des consommateurs, ils vont devoir se comporter de manière loyale et ne pas chercher avec des petites lignes, avec des stratagèmes, à les tromper s'agissant du risque et type de contrat qu'ils proposent.
Vous restez bien avec nous dans un instant, direction la Grèce où des camps de réfugiés attisent la colère des habitants. On va en parler dans la suite du journal de 8h. Vous restez bien sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h12, la suite du journal. Sonia Mabrouk, Mathieu Béliard.
Et direction la Grèce à présent, où pour la deuxième journée consécutive hier, de violents heurts ont opposé la police à des habitants des îles de la mer Égée. Ces derniers refusent catégoriquement la construction de deux nouveaux camps pour les migrants.
Bonjour Vincent Herouet.
Bonjour.
Le Premier ministre grec appelle au calme tout en restant ferme sur la construction de ces nouveaux camps.
Alors à Mytilène, capitale de Lesbos, il y a 30 000 lesbiennes et lesbiens. Et dans le camp de Moria à côté, presque autant de migrants. Ils viennent de la terre entière, 108 nationalités. Beaucoup d'hommes entre 18 et 30 ans. Le jour, ils tiennent les murs du centre-ville. La nuit, les Africaines font le trottoir. Tous attendent le visa ou l'expulsion. Évidemment, vol, bagarre, trafic de drogue, caillassage, incendie volontaire, pillage des villas, massacre du cheptel. Désespère l'autochtone. L'autochtone, personne ne le plaint, il a un toit. Les 80 ONG sur place lui font même la leçon. Elle prospère sur le malheur. Et l'insulaire se sent seul face au tsunami migratoire. L'Europe l'a oublié. Mais les îles, c'est fait pour ça. Y oublier ses soucis. Comme Napoléon envoyé à Sainte-Hélène, Pétain à l'Île-Dieu et les migrants à Lesbos. Ce qui rend fou les habitants, c'est d'être trahi par la droite pour laquelle ils ont voté massivement au printemps.
Le gouvernement grec veut créer des centres fermés pour 20 000 réfugiés.
Des camps durs, des camps en plus. Les habitants ont voté contre. L'État est passé outre. Lundi, les bulldozers ont débarqué avec la police anti-émeute. Le chantier est ouvert, les hostilités aussi. Le conseil régional dénonce le mépris pour des îles qui ont donné naissance à Homère et Pythagore. Le vrai théorème, c'est que l'État ne protège plus les citoyens. L'État grec est le parti de l'étranger, hier soumis à l'Allemagne, aujourd'hui à la Turquie. Europe est un mot grec, démocratie aussi, mais les deux sont piétinés à Lesbos.
Le regard international de Vincent Herouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h.
Pourquoi avoir autorisé le déplacement à Lyon de 3000 supporters italiens pour le match hier soir? C'était de la Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin.
En pleine crise du coronavirus, bien sûr, la décision de ne pas annuler ce déplacement est pour le moins troublante, mais restons pour l'heure sur l'exploit de l'équipe lyonnaise en huitième de finale aller de Ligue des Champions. 1-0, c'est la première fois que Lyon s'impose face à ce géant d'Europe. Grosse ambiance forcément hier au Groupama Stadium. Cyril de la Morinerie.
Sur le terrain, les joueurs viennent saluer les supporters. En tribune, tout le monde est debout. Pierre n'en revient toujours pas. Lyon a bel et bien battu la Juve de Cristiano Ronaldo.
Quelle victoire! Plus beau match de la saison, ça c'est sûr. Cristiano Ronaldo, pas bon aujourd'hui.
Pas bon, comme le reste de l'équipe turinoise. Malgré sa pléiade de stars, le club italien n'a pas réussi le moindre tir cadré. Le héros du match, c'est Luca Tuzar, idéalement servi à la 31e minute par Oussem Aouar.
Je vois que le ballon arrive sur mon pied gauche et j'arrive à la mettre au fond. Donc, émotion de fou, je savais qu'il y avait beaucoup de monde qui me soutenait dans la tribune. Et voilà, des frissons et après, tout qui va bien.
Et même si ce supporter y croit dur comme fer...
On va voir ce qu'il allait faire au match retour.
L'entraîneur lyonnais Rudy Garcia se montre prudent. Ce n'est que la première manche. La deuxième est prévue à Turin, dans 3 semaines. Lyon, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
8h15, votre invité politique Sonia.
Vous venez de l'entendre, beaucoup d'ambiance hier au Groupama Stadium de Lyon, mais aussi de nombreuses questions pour notre invité, la porte-parole du gouvernement. Pourquoi le match n'a pas été annulé ou du moins reporté? Où est le fameux principe de précaution? Le gouvernement l'a-t-il pris à la légère pour la ville de Lyon? Bonjour Sibeth Ndiaye.
Bonjour.
À tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Votre invité Sonia Mabrouk, c'est la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Sibeth Ndiaye. À partir d'aujourd'hui, la France va avoir peur durant 14 jours, le temps de savoir si votre décision de laisser entrer 3000 supporters italiens hier à Lyon n'aura aucune conséquence sanitaire. 14 jours d'angoisse donc.
Non, pas du tout. Je pense que c'est important de comprendre le phénomène de propagation d'un virus et de comprendre pourquoi est-ce que les mesures telles qu'elles ont été prises ont été décidées. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est que en fait, ça n'est pas le politique qui décide tout seul. C'est le politique qui s'appuie sur des comités d'experts scientifiques, qui s'appuie sur l'avis, au fond, d'experts médicaux qui savent de quoi ils parlent et qui connaissent la manière dont se répand une épidémie. Et donc, on fait la différence entre des gens qui viennent par exemple d'une région dite à risque où il y a une circulation du virus, c'est le cas de la Lombardie par exemple, et donc c'est la raison pour laquelle les gens qui rentrent de Lombardie, on leur demande de rester confinés chez eux, et c'est aussi la raison pour laquelle des gens qui ne viennent pas de Lombardie, ce qui était le cas des supporters turinois, peuvent venir en France. Ils ont été dans une tribune spéciale et ils ont disposé d'informations à la fois dans les haut-parleurs mais aussi sous format papier, en italien qui leur permettait de savoir quelle était la conduite à tenir.
Sauf que depuis hier soir, il y a 3 cas d'infection dans le Piémont, contrairement à ce que dit le ministre de la Santé. S'il y a contamination de Français, qui assumera une telle décision? Qui assumera sa responsabilité?
Ce qu'il faut voir aussi de manière précise, c'est que à ce stade, vous avez 3 cas de contamination. Effectivement, ça n'est pas encore une circulation épidémique du virus. Donc il faut savoir surtout garder ses nerfs, garder son calme et ne prendre de décisions que lorsqu'elles peuvent être étayées scientifiquement et médicalement.
Mais garder ses nerfs, c'est facile à dire ici dans ce studio, mais pour les Lyonnais, comment vous expliquez que l'Italie interdise les matchs de foot avec des supporters dans ses stades, qu'en Irlande, le match de rugby Irlande-Italie soit reporté, quand nous, on accueille 3000 supporters de la Juve à Lyon? Comment expliquer cette incohérence?
Je crois faire attention. En Italie, il y a une circulation épidémique dans un certain nombre de régions de l'Italie. L'Italie a pris des mesures drastiques puisque au stade où ils en sont, ce qui est important, c'est de contenir la propagation de l'épidémie. Donc c'est pour ça qu'il y a des mesures de quarantaine. C'est pour ça qu'il y a des zones qui ont été définies en Italie pour que les gens ne puissent pas y entrer ou en sortir quand ils y sont, une fois qu'ils y sont rentrés. Ça n'est pas le cas de la France à ce stade. Je ne dis
à
pas.
À ce stade, si Bethania,
je ne dis pas.
Il faut faire confiance à la chance. Si dans 14 jours, il y a de nouvelles contaminations.
Ce n'est pas une question de chance. Aujourd'hui, les frontières physiques dans le monde tel que nous le vivons, elles n'ont pas de sens pour un virus.
Oui, mais hier soir, on a reçu 3000 vecteurs potentiels de ce virus.
Je vous prends un exemple. On aurait 3000 personnes vivant dans la région de Lombardie, partant aux États-Unis parce qu'ils ont envie de faire un voyage aux États-Unis. Ces 3000 personnes rencontrent 3000 autres personnes, lesquelles vont au Danemark, en Suisse, en Finlande, aux États-Unis, en Angleterre, puis viennent en France. On aura beau avoir fermé notre frontière, ça ne change strictement rien au fait que la circulation des personnes aujourd'hui fait que la notion de frontière physique, elle n'a pas
de
sens pour un
virus.
Mais où est
le principe de précaution qui nous protège? Est-ce que les intérêts financiers du foot sont supérieurs à la santé de nos citoyens?
C'est n'importe quoi de dire un truc.
Êtes-vous sûr que c'est n'importe quoi?
Je suis parfaitement certaine que c'est n'importe quoi. Depuis le début de cette crise, nous avons eu une constance. C'est avoir de la transparence, informer les gens. C'est avoir des décisions qui sont prises et qui sont étayées scientifiquement. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, l'Italie a été un des premiers pays qui a mis en place des portiques de détection de température, ce que nous avons refusé de faire. Nous avons refusé de faire parce que les scientifiques et les médecins nous disaient que ça n'avait pas d'intérêt, parce qu'on pouvait franchir un portique en ayant pris de l'aspirine juste avant, donc ne pas avoir de fièvre. Est-ce que aujourd'hui ça a empêché en Italie la propagation du virus? Non.
Si la preuve en est. Les 3000 supporters qui sont arrivés hier, est-ce que vous leur avez exigé un certificat médical négatif au coronavirus?
Mais quand bien même nous l'aurions fait, ça n'aurait eu aucun intérêt du moment que le virus... D'abord, vous pouvez être porteur du virus et asymptomatique. C'est-à-dire, vous ne présentez pas de symptômes. Vous n'avez pas les symptômes de l'état grippal, entre guillemets. Vous pouvez aussi être... en période d'incubation, donc être dans la période de 14 jours, et on voit bien que ça n'a pas de sens, ça n'aurait pas eu de sens de leur demander
alors
un certificat médical.
Alors pourquoi avoir mis en quarantaine des Français qui sont rentrés de Wuhan? Ça sert à rien, puisqu'hier
non,
on a accueilli des supporters.
C'est bien pour ça
avec
que je
contrôle.
Vous dis, c'est bien pour ça que je vous dis qu'il y a une différence sur la notion de zone à risque. Il y a des zones, c'est la région.
Mais
la
hier
région
on a appris
Chine.
Qu'il y avait 3 cas. Pardonnez-moi, dans le Piémont.
D'accord, je comprends bien, mais ça n'est pas une circulation épidémique. Quand vous êtes en Chine, que vous avez 80 000 cas, que vous voulez revenir de Chine, c'est normal qu'on vous mette en quarantaine. Quand vous revenez de Lombardie, où il y a des centaines de cas, c'est normal qu'on vous mette
alors,
en quarantaine.
Alors, continuons dans votre logique. Les enfants français qui reviennent d'Italie, pas seulement de Lombardie, d'Italie, sont priés de rester chez eux. Où est la logique? Puisque les milliers de supporters italiens hier peuvent venir tranquillement
alors,
sur le territoire
vous
français.
Vous savez, les enfants, ils vont à la crèche, à l'école, au lycée. Donc, ils sont dans des endroits qui sont confinés. Et par ailleurs, c'est difficile de s'assurer qu'un enfant à qui on ferait, par exemple, porter un masque pour éviter la projection de gouttelettes dans lesquelles se tuerait du virus. En fait, on ne peut pas demander à une maîtresse de maternelle de surveiller des enfants pour qu'ils portent leur masque en permanence. C'est la raison pour laquelle on a pris une mesure consistant à faire en sorte que les enfants restent à la maison. Mais les parents, en revanche, qui viennent d'Italie, eux aussi. Ces parents, on leur demande ce qu'on appelle la réduction de vie sociale. Donc, on leur dit, il vaut mieux rester chez vous, ne pas aller au travail. Et d'ailleurs,
mais
on a
vous entendez
mis en
donc
place...
ces parents, on
mais
leur c'est... demande de, peut-être de réduire leurs déplacements et leurs fréquentations. Mais les supporters italiens
non,
hier,
parce
non.
Parce que les parents, ils sont capables de porter un masque. Ils sont capables de le porter durablement. Et donc, au fond, quand on regarde là où il y a eu des cas contacts qui ont été contaminés par ce qu'on appelle les patients zéro. jusqu'à maintenant, en France, tous les patients, on a été capable de tracer la manière dont ils ont contracté la maladie. Ils ont été soit au contact
jusqu'à
de personnes.
Jusqu'à présent, oui.
Mais bien sûr, mais je ne vous dis pas que nous n'aurons pas d'épidémie en France. Je ne vous dis pas d'ailleurs
que
nous ne découvrirons pas.
Il n'y a pas de principe de précaution par rapport à rien. Madame Sibeth Ndiaye, si dans 14 jours, il y a un cas de contamination à Lyon,
Qu'est-ce que vous allez dire? Vous ne pourrez pas l'attribuer au fait qu'il y ait eu...
Êtes-vous sûr?
Je ne peux pas vous le dire avec 100% de certitude. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas prendre de décisions uniquement sur la foi de la peur. On doit prendre des décisions qui sont, je le répète encore une fois, étayées
médicalement. Mais le problème n'est pas que médical, il est politique aujourd'hui. Vous avez aussi la responsabilité de cette décision. Parfois, on a l'impression que vous cachez derrière aussi la vie des médecins que l'on respecte.
On ne se cache pas derrière la vie des médecins, mais dans ce cas-là, si on écoutait la peur collective, qu'est-ce qu'on ferait si on écoutait la peur collective? On se barricaderait à l'intérieur de nos frontières?
Non, principe de précaution.
Non, c'est pas ça. Je vous dis, si on écoute la peur collective qui n'est pas, qui au fond est guidée par... Je comprends parfaitement le fait qu'on ait peur, mais aujourd'hui, en France, on a quelques dizaines, on a moins d'une vingtaine de cas. Je vous rappelle juste, une épidémie de grippe en France, c'est en moyenne 2,5 millions à 3 millions de personnes qui sont infectées chaque année. Et en ce moment, il y a une épidémie de grippe. Et donc, je ne fais pas la comparaison entre la grippe et le coronavirus, soyons très clairs de ce point de vue-là, parce que le coronavirus est une maladie qui est plus grave que la grippe saisonnière. Il faut être bien clair de ce point de vue-là. Je vous dis simplement qu'on doit conduire, que la réponse qu'on doit conduire, elle est graduée en fonction de l'état de propagation du virus.
Alors,
il faut le faire avec
envisageons.
Calme, et il faut le faire avec, évidemment,
avec calme,
beaucoup de rigueur.
Mais envisageons aussi ce qui peut se passer dans les prochains jours. Est-ce qu'une ville comme Paris, est-ce que vous envisagez un confinement partiel ou total?
Eh bien, évidemment, on dispose de plans qui permettent de réagir en cas de pandémie, c'est-à-dire en cas d'épidémie qui touche le monde entier, ou même en cas d'épidémie en France, qui nous permettent de voir comment on adapte la réponse.
On est prêt, donc.
Je vais vous donner un exemple. Jusqu'à maintenant, on est dans une phase où on essaie de faire en sorte que le virus ne se propage pas, donc qu'il n'y ait pas trop de cas et de plus en plus de cas. C'est la raison pour laquelle on confine des gens, et c'est la raison pour laquelle on invite les gens qui sont infectés à séjourner à l'hôpital.
Est-ce que les villes sont prêtes, Madame Ndiaye? Paris, par exemple.
On va, si d'aventure, ce qui est vraiment loin d'être impossible, nous basculions en situation épidémique, on ferait en sorte que les gens qui sont les cas les plus simples restent à la maison pour être soignés chez eux et que les cas les plus graves aillent à l'hôpital.
Est-ce que vous envisagez un scénario de confinement, oui ou non?
Mais on doit mettre sur la table l'intégralité des scénarios qui existent, ce qui nous permet de pouvoir être prêts à y répondre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons activer les hôpitaux pour qu'ils puissent apporter une réponse, notamment en termes de tests, ce qu'on appelle ambulatoires, où vous n'êtes pas obligé de rester à l'hôpital pour être testé au coronavirus.
Alors,
donc on adapte
scénarios,
la réponse en fonction de la gradation du danger.
Parmi ces scénarios, peut-être l'annulation de l'élection municipale, le report? Vous l'avez envisagé?
Non, pas du tout. En tout cas, moi, je n'ai participé à
la question
aucune...
ne se pose pas de la campagne.
Je n'ai pas dit que la question ne se posait pas. Je vous dis que, compte tenu des données qui sont à notre portée aujourd'hui, à notre connaissance, nous n'envisageons pas de faire
d'empêcher... Mais comme vous êtes dans l'anticipation, je suppose que l'hypothèse s'est clairement posée. Est-ce que vous en avez parlé avec le président, au Conseil des ministres?
J'ai participé à toutes les réunions ministérielles qui concernent le coronavirus. Dans aucune de ces réunions ministérielles, la question ne s'est posée d'annuler les élections municipales.
Tout ce que vous dites vaut aujourd'hui, évidemment, comme l'épidémie peut se propager ou le virus.
Mais c'est
demain,
pour ça
nous aurons
que
peut-être
quand
une autre réalité.
Quand vous entendez le ministre de la Santé, Olivier Véran, il a toujours cette phrase en introduction de tous ses propos. Il dit « La situation est très évolutive au plan international comme au plan français. » C'est la raison pour laquelle on doit avoir des mesures qui tiennent pour maintenant. Mais on sait aussi que ces mesures peuvent évoluer dans le temps. Et nous sommes prêts à les faire évoluer. Et en anticipation, on prend un certain nombre de mesures. On arme les hôpitaux. On donne des informations aux 800 000 professionnels de santé, on fait en sorte que le système de santé français soit prêt à toutes les éventualités.
Olivier Véran qui a dit lundi, aujourd'hui il ne reste qu'un seul malade en France, mais ça c'était lundi. Depuis, un mort français, 18 personnes contaminées.
Mais bien sûr, mais c'est normal, une épidémie c'est quelque chose qui évolue. La question qu'on doit se poser c'est est-ce qu'on est
tout
prêt...
Tout comme la communication du gouvernement.
Mais en fait, notre communication, c'est une communication qui se fait dans la transparence. Donc, je ne vais pas vous dire il y a des malades quand il n'y en a pas ou il n'y a pas de malades quand il y en a. Donc, quand Olivier Véran...
Mais qu'est-ce qu'on sait au final?
Mais ce qu'on sait, c'est les cas qu'on a détectés. on sait les enquêtes qu'on mène pour connaître les cas qui sont contacts et qu'il faut éventuellement isoler, et on a des modélisations de ce que peut être le développement d'une épidémie. En fonction de ces modélisations, on prend des décisions pour adapter la posture sanitaire de notre pays vis-à-vis de cette épidémie.
Merci Sibeth Ndiaye, invitée ce matin sur Europe 1.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28. Vous restez bien sur Europe 1 à suivre la météo, les infos, notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini avant 9h, la revue de presse de Nicolas Cantelour.
Europe 1, il est 8h30, vous écoutez Mathieu Béliard.
Un nouveau point sur l'info avec Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour.
La France fait face ce matin au coronavirus, 18 cas sur le territoire, 2 morts à Amiens, un homme dans un état grave et 15 millions de masques débloqués par le gouvernement.
Et elle était à l'instant l'invitée de Sonia Mabrouk dans ce studio. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, précise, il n'y a pas de circulation épidémique du virus à ce stade en France. On ne doit pas prendre de décision sur la foi de la peur et le report des municipales n'est pas envisagé à l'heure actuelle, ajoute Tel. Invité du journal de 8h, Odile Launay, infectiologue responsable du centre de vaccinologie de l'hôpital Cochin, estime pour sa part que le virus circule toutefois plus que ce que l'on pense en France. Et c'est donc dans ce contexte qu'Emmanuel Macron se rend en Italie, pays très touché par le coronavirus. Le président se rend à Naples pour un sommet France-Italie. Jean-Rémy Baudot.
Autour du président aujourd'hui à Naples, une dizaine de ministres. Même chose côté italien. Fallait-il maintenir ce sommet ? Oui, sinon on arrête tout, répond sûr de lui un membre du gouvernement. L'Élysée reconnaît pudiquement, je cite, que le contexte est compliqué en termes de santé publique. Mais Paris a laissé Rome décider. Il aurait été malvenu que la France prenne l'initiative d'annuler. Si l'Italie l'avait fait, on aurait trouvé une autre date, affirme un conseiller. Emmanuel Macron prend-il un risque à venir ici aujourd'hui ? Aucun laisse entendre son entourage. Où qu'il aille, il est toujours accompagné de son médecin personnel. Pour l'Élysée, c'est un sommet important. Il y a encore un an, France et Italie ont connu une montée de fièvre sur fond de tension entre Emmanuel Macron et Matteo Salvini. L'heure est désormais à la réconciliation. Coronavirus ou pas, Paris et Rome veulent montrer que leur relation n'est plus grippée. Naples, Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
Conséquence du coronavirus, une chute mondiale du trafic aérien. Et pour faire face à cette crise, la compagnie Air France va prendre de nouvelles mesures d'économie, allant de la réduction de dépenses au gel de certaines embauches. C'est ce que dévoile un courrier interne de l'entreprise. À Strasbourg, cette nuit, l'incendie d'un immeuble a entraîné la mort de 5 personnes et fait 7 blessés. Les habitants ont été évacués, hébergés dans un gymnase. Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est.
Un incendie qui s'est déclaré vers 1h30 du matin dans une cage d'escalier donc d'un immeuble qui est à proximité de la gare, un immeuble de 7 étages. L'incendie a provoqué le décès de 5 personnes, donc c'est un bilan extrêmement lourd. Ce sont les personnes qui ont cherché à quitter leur logement par la cage d'escalier. Il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un incendie criminel et c'est plutôt la piste accidentelle qui semble se dessiner.
Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est, interrogée par Paul Lassen. 2 personnes ont tout de même été interpellées à proximité de l'immeuble et sont interrogées pour des vérifications. Un dernier mot de football. Hier soir, l'exploit de Lyon, l'OL qui a battu la Juventus de Turin 1-0, but de Lucas Touzard. Match retour le 17 mars.
Merci beaucoup Simon Rubin. Il faut parler effectivement de l'exploit des Lyonnais. Oui, il y avait 3000 Turinois dans le stade. Oui, il y avait quelques masques dans les tribunes. Mais Lyon a battu la Juve 1-0.
Tenu bon.
Et c'est pas mal avant le match retour donc dans le 17 mars, vous l'avez dit. Simon Rubin, merci beaucoup. Un nouveau journal à 9h avec Hélène Zélani. Tout de suite, la météo, Laurent Cabrol. Restez bien sur Europe 1. 8h34, donc la météo avec Laurent Cabrol.
Et avec beaucoup de neige qui devrait se manifester, hein, parce que ça, pour l'instant, ce ne sont que quelques petits flocons ici ou là, mais quand même, dans l'après-midi, avec la baisse des températures, car elles vont baisser, sur le Nord, la Picardie, les Ardennes, la Champagne, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, peut-être le Dijon et les Alpes du Nord, nous aurons des chutes de neige à basse altitude et même en pleine, car la neige arrive sous la forme d'abord de pluie sur tout l'ouest de la France, qu'elle est en train de quitter, elle quitte la Bretagne et la Basse-Normandie, où nous aurons un peu de soleil, et elle est arrivée sur Paris, elle va rester sur Paris un bon moment, hein, peut-être même toute la journée, avec 2-3 flocons ici ou là, et elle devrait vivre une amélioration en Bretagne, Basse-Normandie, Vallée de la Loire et Poitou-Charentes. Dans le sud-ouest, il pleuvra encore longtemps, les vigilances oranges, je n'y reviens pas, on en a longuement parlé. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire depuis ce matin, et ça, je vais le faire maintenant, parce que c'est très très important, c'est le vent. Et le vent, j'ai oublié, j'ai un post-it juste pour me le rappeler, voilà. Le vent, 70-80 km/h.
Si certains écrivent sur leurs mains, s'il vous plaît, on peut prendre une photo.
70-80, peut-être 90 km/h cet après-midi, et ce vent il faut vraiment faire attention.
Les penses bêtes de Laurent Cabrol. Merci beaucoup, Laurent. La météo tous les quarts d'heure le matin sur Europe 1, il est 8h36.
Hi, this is Madonna. Are you ready?
Moi, je suis prêt. En tout cas, dans 25 minutes, Europe 1 vous offre les dernières places pour aller voir Madonna au Grand Rex le 4 mars prochain. Vous irez voir Madonna avec la personne de votre choix. Le jeu démarre à 9h pétante. Tirage au sort demain matin et les gagnants avec nous à l'antenne sur Europe 1 pour jouer à partir de 9h. Hein, je le rappelle, vous envoyez Madonna, c'est pas dur, hein, Madonna par SMS au 739-21. Sur Europe 1, à suivre le rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Est-ce que vous seriez tenté par des vacances à la ferme avec les enfants? Ça doit être absolument réjouissant. Eh bien, figurez-vous que ça se développe à vitesse grand V. Le nouveau meilleur ami des agriculteurs, c'est Airbnb.
8h37, c'est la matinale d'Europe 1, hein, Mathieu Béliard.
Tous les matins, c'est notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini qui, cette semaine est à Paris au Salon International de l'Agriculture. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Et décidément, pour chacune de vos chroniques, il y a une chanson de Bourvil.
À la campagne, avec ma compagne, on vit bien tranquille comme deux insouciants.
Et vous nous dites, Fanny, vous nous dites qu'un phénomène est en train de grandir dans les campagnes françaises. On appelle ça l'agritourisme.
Oui Mathieu, dans agritourisme, comprenez tout simplement le tourisme à la ferme. La tendance est vraiment à la diversification des activités dans la profession, puisque sachez-le, un agriculteur sur cinq ne vit plus exclusivement sur des revenus liés à la vente de sa production. Et c'est bien l'agritourisme qui prend la part belle pour nombreux d'entre eux, ce qui peut compléter tout de même jusqu'à 30% de leurs revenus annuels. Une aubaine pour les touristes aussi, qui viennent à la ferme prendre l'air le temps d'une semaine ou d'un week-end, et vont pouvoir aussi assister ou participer aux activités qui font le quotidien de leur hôte.
Et il y a de plus en plus de gardez votre accent Fanny, gardez votre accent. Il y a de plus en plus de plateformes qui se développent justement et qui facilitent la mise en relation entre agriculteurs et ses nouveaux clients.
Oui, et d'ailleurs, il y a un des gros acteurs de l'hébergement qui a compris l'attrait que peut avoir cette nouvelle clientèle pour l'agritourisme. C'est Airbnb qui propose le concept d'immersion à la ferme avec, en 2019, des chiffres révélateurs. 3,7 millions de voyageurs ont visité les communes rurales, soit 20% de l'activité de la plateforme en France, qui compte plus de 6000 fermes en hébergement. Il y a aussi AgriVillage, une plateforme dédiée à ce type d'hébergement, associée aussi à une activité de la vie à la ferme. Ça, c'est sympa. Vous pouvez choisir en fonction de ce que vous avez envie de faire et d'expérimenter. Il y a la traite, la tonte des moutons, le maraîchage ou encore la récolte. AgriVillage, qui a été fondé il y a à peine un an, compte déjà 400 fermes dans 53 départements.
Et il y a là aussi une très belle opportunité finalement de recréer du lien entre les producteurs et les consommateurs.
Moi, en tout cas, c'est ce que je retiens. C'est une réelle opportunité, Mathieu, pour une toute nouvelle clientèle en manque de nature de mieux connaître le métier d'agriculteur. L'agritourisme permet vraiment de réinstaurer du lien, hein, en invitant à une reconnexion des personnes avec la terre. Aux antipodes du tourisme passif et consumériste, ce tourisme-là se veut vraiment vertueux et permet aussi, dans un contexte de perte de confiance, pour ne pas dire de grande méfiance vis-à-vis des pratiques d'élevage et de production alimentaire, d'aller plus près, au plus près de la source de notre alimentation pour pacifier la vision que nous avons de l'agriculture et des agriculteurs.
Notre rendez-vous à la ferme tous les matins, on apprend des choses au contact de la nature, c'est avec vous Fanny Agostini et à retrouver sur europe1.fr.
En attendant demain sur Europe 1, Jean-Pierre Montané.
Bonjour Jean-Pierre.
Papa.
Ah, vous l'attendiez, ouais. Vous l'attendiez évidemment. On a parlé à 7h25 avec Axel de Tarlé dans Le Monde Bouge. De la tendance rétro dans les publicités. On se rappelle tous de ces publicités justement DIM, en l'occurrence pour les citer. En attendant demain, mon cher Jean-Pierre, révolue le temps des top modèles qui faisaient de la pub pour la lingerie féminine avec des talons. L'inclusivité va bouleverser demain le marché de la petite culotte.
Eh oui, les femmes normales ont pris le pouvoir, corpulentes, petites, aux peaux brunes, blanches ou noires, mûres, elles assument en mode 4x3 leurs différences pour vendre slip et soutien-gorge. Déboulonner le diktat de la sacro-sainte taille mannequin 90-60-90, censé définir les proportions de la femme idéale vue par l'homme, bien sûr. Fardeau d'une beauté parfaite et injuste. Toutes les enseignes de lingerie corrigent le tir avec des campagnes qui mettent en scène des mannequins qui ressemblent à des clientes lambda. Regardez la dernière pub d'Etam intitulée « Oser être soi ». On y voit des femmes radieuses, bien dans leur corps, plurielles, mais tellement loin de ces bimbos aux formes affriolantes. C'est une révolution.
Qui est à l'origine de ce bouleversement ?
Les féministes de tous bords, enterrées l'époque en 95 où Eva Herzigova demandait aux hommes de la regarder dans les yeux alors que son Wonderbra nous en mettait plein la vue. Terminer la femme objet dans les pubs au message sexiste, la généralisation de l'inclusion, le contraire d'exclusion, a accouché aux États-Unis du mouvement Body Positive pour aider les femmes à s'aimer telles qu'elles sont. En septembre dernier, à Paris, un défilé dans la rue s'est attaqué au canon de la mode avec des mannequins de 18 à 65 ans, femmes obèses, anorexiques ou des transgenres. Et le body positive est en train de gagner des batailles. Victoria's Secret, la marque américaine par exemple, a décidé d'arrêter ses méga shows avec ses anges, ses bombes atomiques comme on dit dans les vestiaires de foot, pour vendre sa lingerie sexy, ringard et surtout politiquement à côté de la plaque.
Pour les marques, les enjeux sont donc considérables là.
Bien, les cartes sont rebattues. De jeunes créateurs biberonnés à l'inclusion débarquent avec des lignes de lingerie soft, paracoleuses, compatibles avec toutes les morphologies et couleurs de peau. Les cadors historiques du marché sont bien obligés de suivre pour séduire les jeunes générations. Très remontées ces jeunes générations contre les standards de beauté de l'ancien monde et les ressorts sexistes du marketing. Alors demain, qu'une célèbre marque qui commence par la lettre A cesse de nous imposer une femme sans tête, au corps parfait, pour nourrir les fantasmes masculins, d'accord. Mais pour contenter toutes les femmes, ce qui est légitime, messieurs les créateurs, ne nous inventez pas demain une lingerie tue l'amour. Tous les corps supportent le sexy. L'inclusion peut aussi rimer avec séduction. Girls, you are beautiful.
En attendant demain, avec Jean-Pierre Montanet, vous écoutez Le Monde Changé le matin sur Europe 1. La publicité aussi, et puis vous écoutez Mika. Bon réveil à tous. Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girl, you are beautiful. 8h43 sur Europe 1, entre les pubs rétro et la pub pour la lingerie qui évolue, vous aurez tout compris ce matin en nous écoutant.
La revue de presse de Nicolas Canteloup et Julie dans un instant sur Europe 1.
8h45 sur Europe 1.
Avec Ixina, dites oui à vos rêves de cuisine et dites oui au rire en écoutant la revue de presse.
Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. Ça a commencé, ça a commencé.
On dit oui au rire, nous. Hein. Voici la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore en studio avec nous. Sonia Mabrouk et son invitée, Sibeth Ndiaye.
Oui, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Mais c'est irresponsable, ce gouvernement qui laisse rentrer 3000 supporters italiens à Lyon. Mais il y a un vrai risque, allons. Que faire? On attend 15 jours à avoir peur comme ça, le temps que le virus incube, c'est ça? Non, Mme Mabrouk, nous avons consulté des spécialistes qui connaissent très bien ce virus, qui le connaissent personnellement, et le virus n'apprécie pas le football, n'a jamais eu de passion pour ce sport, n'a jamais touché un ballon, ne s'intéresse pas à cela. Non, Mme Mabrouk, ce virus de surcroît n'a pas de papier, n'a pas pu donc passer nos frontières. Non, Mme Mabrouk, ce virus de surcroît n'était pas supporter de la Juventus puisqu'on l'a vu en possession d'un abonnement de l'AC Milan. Enfin, tout de même, vous confinez des enfants qui reviennent d'Italie et vous laissez rentrer 3000 supporters italiens à Lyon, à Londres, c'est irresponsable. Non, Mme Mabrouk, parce qu'il y a une différence entre des enfants et des parents. Les parents sont plus âgés que les enfants. Les enfants, on le sait, sont irresponsables car ils jouent avec leur masque, ils jouent avec un élastique, ils jouent avec leur élastique. Contrairement aux parents qui ne jouent jamais avec leur élastique, ça aura pas peut-être Monsieur Griveaux, mais ça c'est un autre sujet. Mais enfin, non, Mme Mabrouk. Enfin, c'est irresponsable, allons. Et alors, si dans 15 jours il y a un mort, qu'est-ce que vous direz? Alors que vous aurez assassiné quelque part ce mort. Non, Mme Mabrouk. Même si on a merdé, ça sera jamais de notre faute, Mme Mabrouk. Alors, la question, je termine avec la question qui me préoccupe pour ce printemps, pour prendre mon thé, les terrasses chauffées. Qu'est-ce que vous allez dire sur les terrasses chauffées? Non, Mme Mabrouk. Vous trompez de client. Moi, je ne suis pas candidate à la mairie de Paris. Je suis porte-parole du gouvernement. Bon, ben, on n'en sortira pas. J'ai pas la réponse. Je préfère chauffer. Tant que j'ai pas la réponse, je reste en studio. À vous, Julie.
Mais non, il faut qu'on passe à autre chose. Allons, allez, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actualité.
Oui, bonjour. J'en ris encore. Voilà, qu'est-ce que c'est drôle? Qu'est-ce qui est drôle? Voilà, c'est bien de faire l'auto-satisfaction. Ma chère. Monsieur Julie, chers auditeurs, bienvenue. Bienvenue sur Europe 1 avec Omblin, avec Laurent, avec Gilbert Montanet, avec tout le monde. L'actualité, c'est bien sûr la victoire de Lyon sur la Juventus de Turin hier en Ligue des Champions. Mm-hmm. Une victoire qui, on le sait, fait du bien, même si elle est totalement inutile, puisque la Juventus a déjà assuré sa victoire. On le sait, en envoyant 3000 supporters de Turin chez les Lyonnais, tous nos joueurs vont être malades au match retour. C'est quand même pas très...
Ouais, oui, mais je l'avais dit.
C'est quand même pas très fair-play, hein, pas vrai, Sonia, d'envoyer notre équipe à l'hosto, même si, on le sait, les Italiens et le fair-play, ça fait deux. Bravo, mais bravo quand même. Bravo quand même. À vous, Julie.
Merci, Mathieu. Le coronavirus continue de se répandre et touche même des personnalités, puisque le vice-ministre de la Santé en Iran est contaminé et de nouveaux cas sont apparus dans notre pays, en France.
Génial, le compteur a bougé, ma chère Julie. Bonjour, chers auditeurs, ici Gérard Rolls. Et en direct du grand viruston, le viruston qui bat son plein en Italie, en France, en Allemagne, en Iran, au Brésil, en Chine, oui, chez les Chinois, en Chine, bref, c'est en mondiovision, vous le savez, le compteur explose, il a bougé le compteur, et les vedettes sont au rendez-vous. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on verra le vice-ministre de la Santé iranien chanter du Stromae avec un masque à oxygène pour les enfants d'un hôpital de Téhéran. Mais on aura aussi, et c'est une exclusivité, on aura aussi François Fellman, qui a été contaminé par des bisous de petite vieille mamie sur un bateau de croisière. Il viendra faire examiner ses poumons à un médecin militaire. Voilà, Chantal elle-même, Chantal Goya, viendra nous chanter Pandi Panda Pandémie.
La fameuse.
Et puis petite maladie de Chine également. Voilà.
C'est pas le petit ours de Chine, là.
Voilà, le compteur a bougé.
Quelle soirée, vraiment.
Le compteur a bougé, Julie. Cher Mathieu, il a bougé le compteur a bougé encore. Un cas dans le monde, c'est formidable. Continuez d'envoyer vos dons. Envoyez vos postillons à vos voisins. Envoyez vos glavios à vos collègues.
Oh non,
envoyez
allez,
tout.
Stop,
à vous, Julie.
Gérard, ça suffit. Allez.
Les recommandations.
En attendant, la France se prépare à une épidémie d'envergure. Les chefs de parti seront reçus d'ailleurs à Matignon aujourd'hui. Bonjour Marine Le Pen.
Oui, bonjour Madame Leclerc. Bonjour à vous toute votre smala. Pardon, petite aparté. Bonjour à toi, jolie métisse. Mais dis-moi, où est ton écharpe? On est en pleine pandémie. Monsieur Béliard ne met pas sa petite écharpe.
J'avais chaud.
Oui, il doit être contaminé, plein de miasmes, n'est-ce pas?
Mais arrêtez.
Il portait des écharpes en juillet, lui. Mais au moins, il faut, si je ne pas tomber malade, il fait péter la chemise ouverte, inconscient. Va. Tu es tout fou, mais je t'aime tout fou tel que tu es.
Alors, Marine Le Pen, pour vous, c'est sûr, il faut fermer les frontières. Hein.
Voilà un peu du sérieux, madame. Absolument, il faut fermer les frontières. Et nous ne pouvons pas risquer de développer une pandémie. Il faut penser aux autres, amis migrants. Donc je le dis, ne venez pas. Nous sommes contagieux, restez dans vos pays. Et puis vous, les clandestins, remontez vite sur vos jolis bateaux, n'est-ce pas ? Fuyez, retournez au Mali, rentrez en Syrie. Voilà, il y a des bombardements, mais croyez-moi, c'est moins pire qu'un Français qui vous touche dessus.
Écoutez, il y a peu de pays qui ont fermé leurs frontières, et puis aucun en Europe.
Oui, mais il y en a dans le monde. Et peut-être que nous aussi, on va enfin y arriver. Donc, Inch'Allah, comme disent les jeunes. Oui, depuis 60 ans qu'on se bat pour ça, et dans mon parti, en fait, il fallait juste un petit virus microscopique pour y arriver. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais merci aux communistes, merci la Chine, et merci au coronavirus.
C'est ça. Allez, et merci Marine Le Pen. Le procès des époux Fillon a donc débuté hier. Pénélope Fillon va devoir prouver qu'elle a bel et bien travaillé pour son mari. Nos équipes étaient sur place.
Madame Fillon, je vais vous demander, madame, de vous approcher, s'il vous plaît, pour identifier quelques pièces à conviction qui vont nous aider à déterminer si oui ou non vous avez réellement travaillé, madame. Donc je vais vous montrer quelques objets. Ceci, par exemple, c'est quoi, madame ? Madame, cet objet ?
J'ai un thermomètre.
Non, madame, c'est un stylo bille, ça, madame. Vous savez à quoi ça sert, madame Fillon ?
Pour attacher les cheveux quand on n'a pas l'élastique.
Non, bon. OK, passons à l'objet suivant. Ça, madame, c'est... Ça, vous savez ce que c'est, ça ?
Une pince à sucre pour le thé, peut-être.
Non, madame, ça, c'est une agrafeuse. Oui, ça sert au bureau pour travailler, par exemple. Ça, ça vous voyez, regardez ici, là, ça.
Ouais, ça, c'est une télévision avec une grosse télécommande, c'est ça?
Non, ça, c'est un ordinateur avec une souris, madame. Bon, on va...
Ah, ça, je reconnais, ce sont des bracelets. T'as vu, François, comme ça me va bien, le bracelet?
Pénélope, arrête, merde, c'est des menottes, ça, laisse ça faire. Tu vas leur donner une mauvaise idée, tu vas nous porter la poisse encore.
Bon, mais
je sais pas si j'aime ma femme. Hein, oh, ben dis donc.
Allez, on parle de la campagne des municipales à Paris maintenant. Elle a été bouleversée, vous le savez, par la triste affaire de Benjamin Griveaux. C'est Agnès Buzyn qui a la lourde tâche de remplacer le candidat En Marche. Marcel Campion, votre regard sur cette candidature
hein? Ouais, non, bah écoutez.
C'est, vous m'entendez là?
Très bien, parfaitement, oui.
Christian, baisse un peu ton accordéon de merde là. Ouais. Oui, c'est n'importe quoi, c'est plus le municipal, c'est l'élection de Miss France, franchement. Non, bah
pourquoi
écoutez, il n'y a plus que des bonnes femmes, franchement.
Ah, il n'y a que des bonnes femmes.
Hein. Ah oui, la Hidalgo, la Dati, la Buzyn, faut me prévenir. S'il y a un défilé de maillot de bain, bah, j'irai me faire épiler les guiboles. Hein.
Oh là là.
Dites-moi, vous qui êtes vous journaliste, je suis à combien dans vos sondages
là, vous êtes à deux. Alors,
À deux, oui. Ouais. Remarquez, c'est ça. Hein. Il y a Jean-Marie Bigard et moi, donc ça fait deux. Vous comptez bon. Hein. Vous ne voulez pas voter pour nous, comme ça qu'on serait trois, Mme Julie. Ouais, hein, avec ça. Monsieur Béliard, Mme Roche, Monsieur Cabron, ah bah, ça nous ferait six. On ne serait pas si mal que ça.
Eh bah, tiens, on va réfléchir à ça. Hein. Merci beaucoup, Marcel.
Elle ne se foutrait pas de ma gueule, la blonde. Et si on remet l'accordéon ouais.
Non. Allez, pour terminer. Ah, on va revenir sur l'affaire
la barbe, papa.
Pour terminer, on revient sur l'affaire Benjamin Griveaux avec quelqu'un que nous recevons pour la première fois ici. Il est donc celui par qui le scandale est arrivé. Piotr Pawlenski est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, Radio Française. Être Piotr. Bonjour. Donnez-moi un marteau.
Vous voulez un marteau, mais pourquoi un marteau?
Je vais clouer testicule, moi, sur le bureau de toi.
Ah non!
Et pour protester contre les médias partisans avec le pouvoir, je suis contre Macron. C'est très mauvais, les médias. Alors, je clouais zigounette sur le bureau, journaliste corrompu.
Mais enfin, je suis pas corrompu. Mais puis, vous.
Touche pas, Cabrol.
Non. Je ne suis pas corrompu et vous n'allez rien clouer sur mon bureau. Ah, voilà. Les enquêteurs cherchent à savoir si vous avez d'autres vidéos du même style, hein, de nos dirigeants, par exemple. Vous prétendez que oui, alors est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Ça fait mal.
Hein. Ça tire sur l'élastique, comme dirait Griveaux.
Attendez.
C'est les gens de la maison.
Alors, vous avez des vidéos de qui, alors?
J'ai vidéo d'Emmanuel Macron faire danse du ventre sensuel à Medef.
Non.
Et il danse, lui, et lui déshabille.
Il se déshabille?
Non, il déshabille système social français.
Ah bon?
Hop, j'enlève code du travail, hop, j'enlève service public, hop, j'enlève hôpital, j'enlève retraite. Et à la fin, France finira poil.
Oui, enfin, c'est un document qu'on a déjà un peu vu, hein?
Oui, j'ai aussi vidéo de...
De qui?
De François Hollande au lit.
François Hollande au lit avec une femme?
Non.
Quoi?
Avec un saucisson à l'ail. Il fait des bisous dessus.
Non, mais arrêtez ça! Allons!
À l'image, ça fait. Oui.
Ils sont fous, ouais.
On a tous l'image.
Les auteurs sont devenus fous.
Merci, Nicolas, conclué. Et bravo à Philippe Cabrivier, à Laurent Vassilion, à Arnaud Demanche. Je voudrais enlever cette image.
Ah non, mais
de ma
moi
tête.
Aussi. Moi aussi.
Toujours. Merci, Julie. Et à demain.
C'était la revue de presse qui, avec Xina, trouvait l'inspiration, imaginez, profiter de conseils sur mesure et donner vie à vos rêves de cuisine. Rendez-vous en magasin et sur xina.fr.
Je suis sûr qu'il y a des enfants qui ont entendu ça.
Ah non, mais moi,
Philippe Bordel, la
bonjour
matinée
Mathieu.
Qui continue, c'est
moi,
quelques médias.
Je ne prends pas la parole tant que Piotr est cloué sur le bureau de Julie. Je refuse qu'on apporte des tenailles pour que je vous raconte mon infomédia.
Un coup sec.
Bim. On va parler d'un casse-tête qui est le temps de parole dans les médias à l'occasion de la campagne pour les municipales. Oui. Ça se fait au chronomètre.
Vous avez 8 heures là?
Comment? Face à face, il y aura Michel Léridon, membre du CSA en charge des questions d'équité de temps de parole, et Laurence Meyerfeld, elle est directrice du réseau régional de France 3.
Faut pas se fâcher avec
avec eux.
Non, non, ni l'une ni l'autre.
C'est avec eux qui
surtout le CSA, surtout le CSA.
Promis, on passera tout, on citera tous les candidats tout le temps.
Exactement. Hein. Notre invité média, Jean-Luc Reichmann, qui va reprendre le costume de Léo Mattei ce soir pour une 7e saison, c'est sur TF1. Et puis l'homme aux 2000 chansons, c'est son surnom, mais en vrai c'est 3000, Didier Barbelivien, il publie un livre d'anecdotes, pas piqué des hannetons. Oui, je sais, c'est une expression à l'ancienne, mais lui aussi est à l'ancienne. C'est même le sujet de son livre, la nostalgie.
Pas piqué des hannetons. Moi j'aime bien cette expression.
Ouais, Philippe aussi, Bandel,
Culture Média, bon, enfin, à 9h-11h.
En 52, elle faisait fureur.
C'est la matinée qui continue, bien sûr. Ombline, on revient demain.
Oui, à partir de 5h avec Julien Pierce.
Moi je serai là dès 6h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.
C'était Mathieu Béliard sur Europe 1.
Europe 1.